Ah, Dishatmunda. Ouf, ça y est, l'épique bataille de Semnonir a rendu son verdict. Telle une parturiente, nous avons poussé, souffert, mais la libération finale fut au niveau des douleurs endurées. Et la cohésion nationale que vit le pays aujourd'hui constitue une formidable récompense collective. Il faut rendre hommage à la férocité ardente de ces Sud-Africains qu'ils ont su combiner avec une remarquable intelligence tactique. Alors oui, associer les mots Sud-Africain et intelligence peut paraître incongru, mais laissons notre enthousiasme triomphal nous entraîner vers ces laudatives considérations. Pour qu'il y ait un grand vainqueur, il fallait un grand adversaire, et les Bocs ont parfaitement tenu leur rôle. Ils n'étaient pas deux Aliénés, ils étaient quatre, six, huit Aliénés, et malgré cela, l'équipe de France a pu renverser le sort d'une partie longtemps mal embarquée. Ce match, déjà entré dans la légende par sa dramaturgie, nous laissera bien des souvenirs en tête. Le premier, la blessure de Colby dès l'échauffement, aura peut-être changé la face d'un monde, et l'occasion de rappeler qu'il ne faut pas taper de pénalité à froid. Les poches sud-africains, habitués à ne pas aller au bout de ses contrats, n'aura même pas entamé ce quart de finale. Bousculés tout au long du match, sévèrement marqués par un combat de chaque instant, les Français auront pourtant su collectivement relever le gant et finir, au bout du suspense et sur une action de légende, par remporter une victoire espérée par tout un peuple. Alors oui, il est temps de le féliciter, celui par qui la lumière est venue, l'homme providentiel qui nous aura offert ce petit avantage au score qui nous ouvre les portes de la demi-finale. Merci à toi, Pierre. Et
T'es sûr?
pardonne-nous de t'avoir, en ces lieux et par d'autres bouches que la mienne, parfois houspillé comme un sermon à l'égarement turbulent. Ce drop de 45 mètres en coin, claqué en toute décontraction à la 84e, te fait entrer dans la légende de notre sport. Et on les excuse par avance, les innombrables bourgarades qui ne manqueront pas de fleurir sur tous les prés dès la semaine prochaine. Elles sont la rançon d'un succès éclatant, maigre prix à payer pour tout le bonheur glané. Désormais, place à la récupération. Quant à nous, observateurs dilettantes, nous pouvons dès lors reprendre le cours de nos obsessions ovales. Peut-on, faut-il aligner l'équipe des finisseurs contre cette Angleterre qui ne fait pas peur à grand monde? Le staff tranchera. Et c'est rempli d'enthousiasme et de confiance en l'avenir que se profile une semaine encore bien excitante pour le rugby de France. Vivement samedi. Si ce sont les demi qui dirigent l'attaque, le déni est parfois la meilleure des défenses. Bienvenue dans le 17e épisode du podcast de la Boucherie Ovalie.
Boucherie Ovalie, Boucherie Ovalie.
Ohé, ohé.
Boucherie Ovalie, Boucherie Ovalie.
Ohé, ohé.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en effet dans ce 17e épisode du podcast de la Boucherie Ovalie. Merci l'affreux pour cette superbe chronique, uchronique comme tu as aimé l'appeler, pour débuter cet épisode. Malheureusement, vous n'êtes pas dans l'univers parallèle dans lequel se trouve justement l'affreux, mais bien dans cette putain de vie qui nous est offerte, celle où la Coupe du Monde en France se poursuit sans les Bleus dès les quarts de finale. Je suis Antoine, alias Copareo, c'est ne m'insultez pas, mais je serai l'arbitre de ce 17e épisode de notre podcast. Et comme un bon père de famille, je m'occuperai de mes deux petits loulous que j'ai à côté de moi. Le premier, c'est l'aîné des deux. Il a toujours eu du mal avec l'école, mais c'est parce qu'il est HPI et qu'il n'a pas le profil type du milieu scolaire. C'est Riwan.
Bonjour,
petit Riwan. Ça va?
Oui, je m'applaudis moi-même. Parce que
bah,
je
tu as
HPI.
Raison. Oui.
Oui, bah ça va.
47
oui.
x 12?
500.
Bravo! T'es trop fort, mon Riwan.
Comme quoi se moquer de Bourgarite, alors que je suis encore plus conclu.
L'autre, c'est le petit dernier. Il est trop mignon avec sa petite bouille et il peut pas s'empêcher de faire le clown partout où il passe. Sébastien!
Bonjour!
Ça va, Bastien?
Ça va.
Eh oui! Comment tu vas, toi?
Bah écoute, comme un jeudi?
Vendredi, on
vendredi,
sait pas.
Comme, un
comme une fin de semaine.
Comme une fin de semaine après une élimination de l'équipe de France.
Non!
Si.
Ah oh, putain, j'espère qu'on va en parler dans cet épisode.
Non, pas trop, je pense.
Eh oui, parce que dimanche dernier, on a vécu un nouveau moment de la petite, de la grande et de la parfois très moyenne histoire du 15 de France.
Ah, tu te fais de la pub sur le dos d'une équipe meurtrie.
Eh oui.
C'est horrible.
On était plutôt dans le très moyen là du coup.
Je tire sur l'ambulance et je ramasse les douilles.
C'est vrai qu'il faudrait écrire une page supplémentaire pour
oui.
ce qui s'est passé.
On va le faire, puis on va l'insérer dans quelques librairies. Et pour tomber sur cette page, eh bien, il faudra l'acheter, messieurs, dames. Puisque notre livre à ce sujet est toujours disponible.
Oh putain, il n'y a vraiment aucune...
Ah, il n'y a aucune... Ah non, bah, y a
aucune...
Pas, aucune limite.
Aucune.
Je suis en mode Galtier, je suis froid et cynique. Ou plutôt en mode Afridus. Bref, on en reparlera. Et comme votre emploi du temps des prochaines semaines s'est pas mal libéré, bah, vous pourrez peut-être passer nous voir lors de notre dédicace à Toulouse le vendredi 27 octobre de 17h30 à 19h à la Fnac Wilson.
Précise que ce livre est en vente depuis plus d'un mois, donc
oui.
Il aura tenu plus longtemps dans les Fnac que la France à la Coupe du Monde.
Oh, boum, boum, boum. Pour les Aveyronnais qui nous écoutent, on sera également au Festival Podcastre le dimanche 29 octobre à 13h30 pour enregistrer un épisode en public au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, qui sera donc une finale dont peut-être vous n'aurez rien à foutre, mais nous on va quand même en parler, on va pas parler que de ça bien entendu.
Argentine-Angleterre, ça fait rêver quand même, non?
Au moins on va rigoler. On va parler de toute la Coupe du Monde bien entendu lors de cet épisode.
Imaginez, n'empêche, le privilège de revoir ce match une deuxième fois. Argentine-Angleterre, c'était quand même le plus beau match de la Coupe du Monde.
En poule.
Ah oui, tu veux dire oui, ouais, le match
de... T'as déjà oublié.
J'ai oublié, il y avait une Coupe du Monde, j'ai zappé moi. D'accord, oui, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Et n'hésitez pas à venir, l'entrée est gratuite, tout ce que demande l'organisation du festival Podcastre.
C'est de venir à Castres.
C'est de venir à Castres,
ce qui est quand même une grosse demande.
Et de vous inscrire sur leur site, parce que c'est gratuit, mais pensez à vous y inscrire, pardon, pour que l'organisation de ce petit festival indépendant ait un peu une idée du nombre de personnes présentes et pour qu'il y ait assez à boire et à manger pour tout le monde, c'est très important. N'hésitez pas à venir parce qu'il y aura du monde de la boucherie. Si vous n'avez pas fait dédicacer votre livre, on sera dans le coin. Et il y aura aussi quelques jeux auxquels vous pourrez participer pour remporter un cadeau.
C'est quand précisément l'horaire de passage de la
C'est pluie. Dimanche 29 octobre de 13h30 jusqu'à ce qu'on nous vire de la scène. Eh ouais.
Tu veux mourir sur scène?
Et peut-être, oui. Et peut-être qu'on fera une pit de hortier, on arrivera à 14h30, on verra. En tout cas, on sera bourré, ça c'est sûr. C'est une chose qu'on ne peut pas nier.
Est-ce qu'on pourra agresser le public comme Urda Pieta?
Tout à fait.
Je viens alors.
Et tu viens avec ton maillot de Castres, j'espère.
Je ne l'ai pas encore, mais... Non, ils n'ont pas de boutique internet, ça c'est pas possible.
Non, mais il doit y avoir, je sais pas, un salon d'élevage ou un truc comme ça, au même moment, il y aura peut-être un stand.
Il sera en tenue d'apiculteur, tu sais, avec la combinaison
peut-être
intégrale.
Peut-être qu'il y aura Baptiste Pazanti dans le public, peut-être. On ne sait pas, il ne le dira pas. Il va mettre une photo de nous.
De masquer mon visage, hein, finalement.
En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir à Toulouse ou à Castres ou ailleurs. Bref.
Oui,
on peut y être. Non. Peut-être qu'on va faire un week-end à Nantes. C'est pas. Trêve de bavardage et on passe aux choses sérieuses. Et oui, car ce que nous craignons a eu lieu ce dimanche 15 octobre aux alentours de 23h. La France a été éliminée de la Coupe du Monde d'un petit point. De sa Coupe du Monde. Un petit point comme en 2019. Un petit point comme en 2011. Un nouvel échec en quart de finale pour les Bleus sur lesquels nous allons revenir avant d'aborder les autres quarts de finale et les demi-finales à venir. Parce que oui. Il va bien y avoir d'autres matchs, ça ne s'arrête pas maintenant. N'en déplaise à votre collègue comptable qui était tombé amoureux d'Antoine Dupont il y a 2 semaines. Et on terminera par un jeu parce qu'il faut quand même s'amuser dans ce monde de merde. D'accord, il nous reste que ça, ça vous va?
Oui.
Vous êtes
prêts? Oui, faisons ça.
Eh ben allez, c'est parti, on commence avec France-Afrique du Sud. 28-29, ce score va nous hanter pour les prochaines années car c'est celui qui a éliminé le 15 de France de sa Coupe du Monde. On va revenir sur ce match en évoquant selon nous les raisons de cette défaite. Parce que oui, ce n'est pas que la faute de l'arbitre. Figurez-vous, même si peut-être que certains autour de cette table ont un avis différent. Bon, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Qu'est-ce que vous retenez du match? Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire sur cette rencontre? Bastien.
Que retenir? Quand j'ai été me coucher, j'ai fermé les yeux et j'ai vu des chandelles tomber sur ma gueule. Et frustrant, voilà.
Frustrant.
J'étais frustré. Tu vois, je pensais que je m'en fous.
On sent que...
Je le gérerais mieux que ça. Et en fait, j'ai été faible, comme
on
beaucoup, et j'étais frustré.
L'humour a une limite, quand même. Il y a des moments où ça rigole plus, hein.
Si, ça va. Si. Mais je trouve que la physionomie du match est très frustrante pour les Français.
Rewan, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match?
Là, faut préciser qu'on est mardi, donc moi, déjà, j'ai déjà lu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a eu des choses qui ont été dites qui étaient très pertinentes. Il y en a d'autres qui étaient moins pertinentes, notamment sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, moi, j'ai pas spécialement besoin d'avoir l'avis du boulanger du coin ou d'un astronaute. Par exemple, c'est un ami du podcast, hein, Thomas Pesquet. Il est déjà venu, mais tu vois, quand il poste une photo de la Terre et qu'il dit « Ah, regardez, c'est bleu », là, tu vois, je fais « Bravo, incroyable, quel génie ». Mais le rugby, c'est pas son domaine, tu vois. Donc, bon.
Monsieur, il est trop copain avec le Stade Toulousain.
T'as vu qu'il sortait un livre? Pour combien tu écris un livre à la place de Thomas Pesquet? Parce que je suppose qu'il a pas écrit complètement lui-même.
Ah, parce que t'as déjà écrit des livres à la place des gens, toi.
Oh, j'ai écrit des livres à la place de gens que je n'aime pas.
Donc,
je pourrais le faire pour Thomas Pesquet, aucun problème.
Oui, après.
Non,
mais
il faut arrêter. Il y a beaucoup de bruit depuis dimanche. Je sais
pas
si.
Pascal Pro, mais il faut arrêter avec les réseaux sociaux. Il y a énormément de médias qui ont fait des articles putaclic.
Oui,
des très grands médias qui ont fait ça. Même des médias pour lesquels tu travailles qui ont fait ça.
oui, c'est
donc
vrai, oui.
Voilà, il y a un moment aussi, c'est aussi eux qui ont bien remué la merde et qui ont cherché à ce que les gens s'excitent.
Bon, après,
pourquoi
ils n'ont pas forcément besoin de ça, mais oui, c'est sûr que ça n'a pas aidé.
Mais ça permet un peu. Les gens qui disent l'arbitre c'est de la merde quand ils disent ce genre d'article, ou en tout cas ce genre de type, parce que généralement les gens ne cliquent pas sur l'article, ils se sentent confortés dans leur idée. Ça, bref, c'est un peu mon avis.
Non, après, on va pas faire le tribunal des médias et dire nous, on est au-dessus des autres et on a un meilleur avis. Juste, il y a eu beaucoup de bruit. Est-ce que c'est utile d'ajouter plus de bruit ? Est-ce que notre analyse est pertinente plus que les autres ? Je ne sais pas. Donc,
on va le faire quand
je
même.
Je préfère que... ne rien dire, en fait. Voilà.
C'est bien. La fin de ce podcast.
Eh bien, Riwan, merci. Écouté. Tu peux prendre la porte là-bas. Tu me la ramènes dans deux semaines. Et on va parler un peu plus de ce match. En détail, alors selon vous, pourquoi est-ce que la France a perdu cette rencontre ? Et je vais repartir vers toi, Bastien. Si tu devais résumer en quelques phrases, en quelques mots, en quelques mots MAUX peut-être, pourquoi la France a perdu ?
Bah écoute, Riwan l'a dit juste avant, il y a plein de gens qui ont déjà fait des analyses très pertinentes, mais je crois qu'il y a eu...
Pour le coup, il y en a vraiment eu qui étaient pertinentes.
Oui, non, mais c'est sûr, et je sais pas, je dirais que...
Notamment la mienne.
Un manque de réussite et de maîtrise, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas prendre 17 points en première période alors qu'ils ont 3, enfin 2 demi-occasions et
19,
tu prends 3 essais. Et puis, je sais pas...
Oui, mais la France aussi en a pris...
Il y a une forme de naïveté aussi.
La France aussi en a pris 19 en première mi-temps.
Ouais, mais avec beaucoup.
L'Afrique du Sud aussi en a pris 22.
Oui, mais c'est pas,
ça
tout
ça a demandé
scénario,
beaucoup plus d'efforts pour les mettre que non, et puis, eux. Ouais. Eux, c'était un coup de pied, c'était bon.
Au-delà des efforts, il y a eu quand même plus de maîtrise côté français. Enfin, tu vois, c'était des beaux essais, quoi. Alors que les essais sud-africains, ils se ressemblent. Enfin, c'est plus ou moins les trois mêmes.
Vas-y, décris-moi le deuxième essai de Cyril Bay. Dis-moi en quoi il est beau.
Non, mais je veux dire, c'est
parce que tu l'as vu déjà. T'as juste vu des jambes, et puis apparemment, il est
oui,
au milieu,
non, mais d'accord, mais ça vient quand même. Il y a plusieurs temps de jeu. Il y a plusieurs. Tu vois, c'est vrai que c'est pas des grandes envolées.
Il y a une belle combinaison en touche.
Une succession de phases de jeu. C'est pas Nouvelle-Zélande-Irlande de la veille.
Il a déjà un syndrome de l'imposteur, donc ne l'enfonce pas non plus quand tu dis quelque chose.
Non, mais moi j'ai revu le match deux fois. Alors que vous, non, vous, je le sais que vous l'avez pas revu.
Non,
j'ai vu le résumé de 15 minutes de TF1.
Moi, non, j'ai absolument pas.
Est-ce que tu l'as vu UG à domicile? Est-ce que c'était bien?
Non, j'ai vu le mag après.
Moi.
C'est pas vrai.
C'est un peu mal terminé. Mais...
Il a laissé du gel sur tes murs un peu ou ça va?
Il n'a pas laissé que du gel sur les murs.
Yes.
Voilà, un truc à couper.
Non, écoute, un peu de sang, j'imagine, tu parles.
Oui, évidemment.
Oui, bien sûr. D'accord, donc oui, c'est.
Donc manque de maîtrise, manque de réussite.
Ouais,
manque de réussite, manque de maîtrise. Bah, les 60 premières minutes, parce qu'en fait, la France a dominé 60 minutes. Ils ont subi 20 minutes à partir du moment où les remplaçants rentrent et à la fin du match on voit pas trop le jour, mais sur 60 minutes tu peux pas finir avec un score quasiment égalitaire vu le scénario du match, quoi. C'est malheureusement
Je vois ce que tu veux dire. Et ce que je vois aussi, c'est cet homme qui lorgne son téléphone prêt à lancer
à
quelques
dégainer.
Saillies. Mettez les gilets pare-balles, Riwano, cette sortie.
Non, mais pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Bastien.
Ok, donc on se dit juste tous les uns les autres. Aucune solidarité.
Non, mais après, je trouve qu'on rentrer dans des trucs sur lesquels on ne sera pas d'accord. Mais pour l'instant, là-dessus, je pense qu'on se retrouve là-dessus.
Ouais. Non, mais moi, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais c'est une défaite que j'ai vue arriver progressivement à partir de la 50e, quand même, quand on fait une bonne entame de première mi-temps, puis on ne marque pas. Enfin, si, on marque 3 points seulement. Et petit à petit, on sent qu'on perd un peu le fil quand même, qu'on était beaucoup plus nerveux que d'habitude. Notamment Antoine Dupont, hein, qui a passé son match à marchander avec l'arbitre, ce qu'il ne fait jamais, hein, d'habitude.
Il y avait du Morgan Parra dans cet Antoine Dupont, je trouve.
Ouais, ouais, non, il était toujours à guiser des choses, il disait, ah, vas-y, fais-moi ça, plus vite, machin, enfin, tu vois.
Je sais que tu regardais le match, là.
Oui. Non, il disait, je veux des ballons rapides, je veux, tu vois. Bon, il quittait Antoine Dupont. Richie Mako, quand il parlait à l'arbitre, il était beaucoup plus poli, je suis désolé. Il disait je pense que l'équipe adverse devrait perdre, et l'arbitre disait oui, c'est vrai.
Il disait permettez-moi de franchir ce ruck sur le côté, je m'en vais récupérer ce ballon, et on disait mais avec plaisir monsieur Macco.
Quand c'est demandé gentiment.
C'est ça.
La politesse, c'est la base de notre société.
Non, mais au-delà de ça, ouais, je trouve que l'équipe, tu sais, d'habitude, même quand ils étaient bousculés voire dominés, il y a toujours un moment où ils revenaient dans le match, ils marquaient un essai. Il y avait ce sentiment de sérénité, n'est-ce pas, que là on n'a pas trouvé. Je trouve qu'on nous a trouvé beaucoup plus tendus. Et à l'inverse, les Springboks, le pack à 90 sélections de moyenne, peut-être un peu moins quand même.
Moi, j'étais serein jusqu'à la pause, franchement, parce que même à la pause, on vire avec 3 points d'avance et tu te dis, ils peuvent pas avoir plus de, tu vois, de réussite et de réalisme que ce qu'ils ont eu en première période. Donc, si les Français continuent comme ça, c'est chemin droit. Bon, évidemment, j'avais pas anticipé qu'on se ferait autant défoncer avec à partir du moment où il y a eu les changements qui ont eu lieu. Mais
alors, on arrive un peu à ce
sujet-là.
Il y a
eu un changement de physionomie de match aussi. Tu vois, c'est le moment où les Sud-Africains ils te prennent et ils t'attirent vers le sable mouvant.
C'est un peu dur. Tous ces changements qui ont été faits à la 50e.
Oui, puis ils ont pourri le jeu, tu vois, dans la limite, comme on dit, n'est-ce pas?
Mais la limite qui est la même pour tout le monde, c'est juste que certains décident de s'en approcher, certains en ont peur.
Mais tu vois, enfin, eux, ils ont beaucoup plus l'expérience de ce genre de
on
match.
On joue pas un match de cricket, je veux dire.
Ils ont déjà gagné une Coupe du Monde, ils ont plein de sélections.
Bien sûr.
Nous, on a gagné le tournoi, mais le tournoi, tu vois, quand tu perds contre l'Irlande, qu'est-ce qui se passe? Et ben, la semaine d'après, tu mets une branlée à l'Angleterre et ça va mieux. C'est pas un vrai match élimination directe. Donc, qu'on a manqué d'expérience contre des vieux grognards, n'est-ce pas?
Bien sûr, mais peut-être que dans 4 ans, ça a le 15 de France, les vieux grognards. Bah, c'est une défaite qui peut apporter beaucoup
d'air. C'est facile de faire son malin en disant moi je pensais que. Mais c'est vrai que je me suis dit que cette équipe de France serait peut-être à son apogée plus tôt dans 4 ans que cette année.
Mais oui.
Mais on lui souhaite en tout cas.
Tu vois, il y a 4 ans, on se disait les Sud-Africains, ils sont à leur apogée. Tu vois, c'est genre leur moment et moi je les voyais pas forcément revenir.
Je voyais l'Angleterre gagner, moi donc non.
Mais il y a 4 ans?
Oui.
Oui, non, mais quand ils ont gagné. Ah. Après qu'ils aient gagné, on s'est dit, tu vois, ils ont eu l'équipe un peu parfaite au bon moment. Moi, je les voyais pas à ce niveau-là, tu vois, 4 ans plus tard. Donc, au final, tu peux très bien avoir une Nouvelle-Zélande dans 4 ans qui est au moins aussi forte que la France.
Ils ont gagné la tournée des Lions britanniques quand même sans jouer une seule seconde au rugby. Ça, c'était inédit, je pense.
C'est sûr.
Mais après, il y a aussi cette question qui arrive derrière. Et moi, je remonte mes manches et...
Vas-y.
Et je vais jubiler. Mm-hmm. Voilà, donc, je vais bien dire cette phrase, bien prendre le temps de la dire. Est-ce que c'est une défaite tactique de Fabien Galthié?
Bah oui, oui.
Dites du mal de lui, allez-y.
Quand tu prends 3 essais sur des chandelles et qu'il faut le 3e pour commencer...
Enfin, sous des chandelles, il n'était pas là.
Non, mais je veux dire...
Il était absent.
Oui, oui.
Qui?
Galthié.
Donc oui, mais c'est vrai qu'il faisait moins des choses, c'était d'y aller.
Bah oui.
Bielbarré, c'est Bielbarré ou Bielbarré, je me rappelle.
Bielbarré.
Le double B. J'ai eu de la peine pour lui, en fait.
Ouais, mais après, en plus, il est pas tellement responsable parce qu'il y en a un, c'est Wookie qui se trouve, et l'autre, c'est Ficou. Donc,
mais il a clairement été ciblé. Son aile était ciblée.
C'était son aile, oui.
Oui, c'est sûr.
Est-ce que c'est vraiment de mettre un gamin? Alors, c'est facile de tout refaire derrière, etc.
Moi, ce qui m'a.
Mais moi, que Villiers ne soit même pas dans le groupe.
Ouais, enfin, il est pas beaucoup plus grand, Villiers. Je sais pas.
Ils auraient dans les vrais, il aurait beaucoup plus apporté, tu vois, par exemple. Bielbarré, il a pas apporté énormément dans le jeu, à part l'essai qu'il a fait marquer en tout début de match.
Ouais.
Non, mais parler des hommes, certes, tu peux toujours dire tel joueur était mieux, etc. Mais. C'est surtout un problème d'organisation, je pense.
Et puis même...
S'ils ont tiré à cet endroit-là, c'est qu'ils avaient vu qu'il y avait une faiblesse.
Que ce soit
Bielbarré ou Villiers, il n'aurait pas été là non plus, je pense. Tu vois. Donc,
Et il y a ça, et puis il y a surtout, à un moment, pour le coup, sans dédouaner Galthié, il y a quand même une intelligence situationnelle. Enfin, sur le premier ou le deuxième essai, je ne sais plus, ils sont 3 dans la zone, ils vont tous les 3 au contest, alors que les Sud-Africains, il y en a un qui monte en voulant juste foutre le bordel, pas tellement récupérer le ballon, et t'en as 2 qui attendent qu'une chose, c'est que le ballon retombe pour le récupérer, tu vois. Et sur le deuxième essai, ou le troisième, du coup, je sais plus, où ils refont la même chose, l'essai d'Aliende, tu te dis, ils vont pas refaire la même connerie, et si, en fait, ils y vont tous les 3, et ils vont tous les 3 au point de chute, plutôt qu'il y en ait un qui se mette en recul en se disant sur des ballons comme ça, t'as une chance sur 2 pour que personne ne le récupère et qu'ils finissent par rebondir d'un côté ou de l'autre. Et voilà, bon, bref. C'est une forme de naïveté, je sais pas.
Après, c'était bien vu, parce que tu vois, c'était pas juste taper une grosse chandelle devant les 22 ou pif et puis attendre que la pièce tombe du bon côté. C'était vraiment des espèces de coups de pied décroisés.
Et qui étaient réussis techniquement, faut les réussir aussi.
Et pour te faire plaisir, effectivement, quand même, d'un point de vue tactique sur les changements, etc. Erasmus, big up Damien, c'est vraiment un génie du mal parce que le coup de faire sortir un troisième ligne pour faire passer ton troisième ligne talon pour faire re-rentrer un troisième ligne qui s'est reposé un quart d'heure et qui re-rentre en fin de match, enfin tu vois, c'est le genre de truc, ça paraît lunaire, mais en fait, ils jouaient avec la règle et
qui a manqué à la France énormément.
Quand il fait rentrer quasiment tous ses remplaçants à la 44e, dont la charnière, alors que celle qui était sur le terrain était très bonne.
Ouais,
tu te dis, il a pété un câble, il fait n'importe quoi, et il se trouve que non.
Juste petit bémol à ça quand même, parce que Faf de Clercq fait quand même une rentrée dégueulasse. Il gaspille une occasion avec sa tentative pour récupérer une pénalité là, en faisant une passe directement dans le dos de Wookie.
Oui,
il perd des ballons importants.
C'est Faf de Clercq. On sait qu'il est globalement nul, mais il est méchant. Il accroche tout le monde.
Sauf que si la France, pour une raison ou pour une autre, obtient une pénalité ou met un drop à la dernière minute et qu'il perde, tout le monde tombe sur Assi Erasmus en disant quelle connerie de faire rentrer Faf de Clercq alors qu'il était nul.
C'est ce que j'allais répondre. Si on avait gagné le match d'un point, on l'a perdu d'un point, tout le monde dirait c'est peut-être la victoire tactique de Galthié.
Bien sûr. Non mais tout à fait, mais
je sais pas, parce qu'en termes de maîtrise, je suis pas sûr, parce qu'en termes de maîtrise,
oui, mais tout le monde retiendrait que le résultat.
Oui, d'accord, mais on dirait pas non plus que c'est une victoire tactique
non,
négative, parce que pour
que
le coup,
victoire de la première ligne,
il y a eu une maîtrise, tu vois, des joueurs, tu te dis c'est logique, mais
sur la composition du banc, qui est donc ce qui est très drôle, c'est que les deux équipes finalement se sont adaptées à l'autre. La France s'est adaptée à l'Afrique du Sud et vice versa. Et vice versa, comme on dit dans.
Pourquoi la France s'est adaptée à l'Afrique du Sud?
Parce qu'elle a mis 5 avant et 3 arrière.
C'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça ?
Souvent, avec Macalou en plus, qui faisait plus ou moins les deux.
Premier match, c'est comme ça, non ?
La France finit.
Non. Il y avait Jaminet au premier match.
Parce, oui, parce que la France finit quand même avec Bielle-Biarré derrière, Internationnel et Ramos en 10.
Ça, c'est parce que ça finit non, mais, en pugilat.
Et surtout, la France finit avec un mec qui n'est jamais rentré.
Non, mais c'est l'inverse. Maxime que t'as dit, ils n'ont mis que deux derrière. C'est ça que t'as dit ?
Non, ils en ont mis trois. Non, ils en ont mis deux.
Ils ont mis 6-2.
C'est surtout que le Lucu n'est pas rentré. Dans un match de très haut niveau, quand chaque joueur compte, il n'a pas fait rentrer Lucu. Comme il ne fait jamais rentrer Lucu d'ailleurs. Mmh. Ça, c'est pas.
Mais après, c'est Antoine Dupont, quoi. C'est...
Mais c'est Antoine Dupont.
Non, mais je comprends, hein, je suis d'accord avec toi. Mais
on aurait... peut-être que. Peut-être
il fait l'éclair de génie, encore une fois. Là, tu
je
peux
suis d'accord,
le match 10 fois.
Match.
Il
oui,
fait,
non,
il fait... non, non, mais même à la 79ème, il peut te sortir un truc. Que c'est le seul à voir et qui te fait gagner le match et tout le monde dit génial Antoine Dupont.
Antoine Dupont après 70 minutes il se rapproche quand même beaucoup de Lucu dans la forme où il est
surtout là, surtout dans ce match
s'ils avaient fait rentrer Lucu et que Lucu avait un fait de spécial, tout le monde aurait dit ah fallait laisser le grand joueur sur le terrain, parce que le grand joueur c'est toujours un grand joueur.
La Nouvelle-Zélande, Lucu fait un coup de pied très intéressant et qui amène un essai.
Oui,
c'est pas non plus Joe Clodo,
quoi. C'est de la discussion d'entraîneur du dimanche, mais à la limite tu mets peut-être plutôt Lucu titulaire et puis tu fais rentrer Dupont
pour faire mal.
Parce que vu les deux premières minutes qu'il fait, Dupont il est quand même était très très fort. Hein. Donc s'il fait ça à la fin du match, je pense qu'on effectivement ça se passe mieux, quoi.
Après rejoins
Bastien.
Mais
bon, ça c'est voilà, c'est du rugby manager, on dit ça.
Oui, tout à fait. Mais je rejoins Bastien dans le sens où quand même le début de match, si la France marque 3 essais en première mi-temps, c'est grandement grâce à Dupont, notamment ces deux coups de pied magnifiques là qu'il fait au-dessus consécutifs. Maintenant,
on l'a peut-être pas assez utilisé.
La France
et les ballons portés aussi.
La France,
le premier est magnifique et ils en refont plus trop après.
Est-ce que la France n'est pas trop prévisible, trop gentille ? Est-ce que c'est pas simple d'affronter la France quand on est une grande nation préparée ?
Non, parce qu'on a quand même tapé à peu près tout le monde sur les 4 dernières années. Je pense pas qu'on soit une nation simple à affronter. Par contre, oui, il y a peut-être un manque d'expérience sur des matchs couperets comme ça, mais c'est là aussi qu'il faut être, dans logique. C'est-à-dire qu'on réclame aussi que les grandes nations affrontent plus les petites. Mais sur une année, tu peux pas jouer et toutes les grandes nations et toutes les petites nations. Et donc, c'est quoi la stratégie pour la France dans les prochaines années? C'est d'aller jouer contre le Portugal, contre des équipes, qui, en match amicaux, les Fidji ou des choses comme ça, ou c'est de jouer que les Sudaf et les Néo-Zélandais pour ne vivre que des matchs comme ça, ou les Irlandais, parce que, même dans le dernier tournoi, le seul match qui est un peu accroché, c'est l'Irlande. Sinon, en fait, les autres, on se balade un peu, quoi. Donc,
on en revient au problème, c'est que autant les petites équipes n'affrontent pas de grandes équipes entre deux coupes du monde.
C'est parti.
Mais la France ne fait jamais de matchs.
Un sujet totalement différent.
Oui, mais c'est pas grave. Mais la France ne fait pas de matchs à élimination directe entre deux coupes du monde, comme les autres équipes d'ailleurs aussi.
Oui,
voilà.
Mais sauf qu'on joue une fois l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il ne faut pas les jouer plus? Tu vois, les Irlandais, enfin du coup les Lions, ils vont jouer trois fois en Afrique du Sud. Et nous, quand on y va, c'est avec l'équipe B, parce que donc en fait, quel vécu a ton équipe dans des matchs un peu couperets où tu prends vraiment le truc au sérieux et où t'as des matchs comme ça qui sont hyper serrés. En fait, on n'a pas. Le dernier match, c'était contre l'Irlande il y a 9 mois, et puis après celui d'avant et encore 6 mois avant contre l'Afrique du Sud. Donc
que quand on est battu tactiquement par l'Afrique du Sud, c'est quand même un peu vexant. C'est comme si tu perdais au puissance 4 contre Thibaut Inchep, quoi. faut avouer, voilà, quand on. Souvent Fabien Galthié est présenté comme ce cerveau génial, ce génie un peu toxique. Donc on va voir comment il sera à rebondir là-dessus.
Là, il est tombé de son piédestal, c'est pas plus mal. On va dire. Moi, c'est le seul truc qui me réconforte un petit peu quand même.
Et Galthié, en plus, qui, d'après ce qu'a dit Florian Grill, n'aura pas les mêmes moyens pour la prochaine Coupe du Monde, n'aura pas le même staff.
Il a dit quoi ?
Il a dit que le staff serait. En gros, il y a besoin d'économies à la fédération. Et que le staff ne serait pas aussi. Il y avait quand même 28 personnes dans son staff. Hein.
Oui, et puis surtout, je crois qu'il y a un problème de site avec les clubs de top 14. C'est-à-dire
et les clubs
très
top 14 ont bien voulu sacrifier pour la Coupe du Monde en France, mais est-ce que pour la Coupe du Monde en Australie dans 4 ans, ce sera pareil ? C'est une autre question.
Bien sûr. Mais...
Et en tout cas, je vous conseille l'équipe. Alors, du coup, c'est du jour où on enregistre, c'est l'équipe 17.
Tu penses
mais
que
y a...
l'Union sacrée va se déditer à cause de cette élimination ?
Il y a déjà des présidents de top 14 qui balancent, et surtout, je vous conseille, c'est succulent, ça dure 3-4 lignes. Il y a Guy Noves qui donne son avis sur Fabien Galthié.
Il a jamais été éliminé en phase finale de Coupe du Monde.
Et qui dit, lui, c'est vrai, mais il y a lui.
Seul sélectionneur à ne pas avoir été éliminé en Coupe du Monde.
Il dit qu'il a
il
des
a
moyens.
Il a jamais perdu un match.
Il dit qu'il a des moyens.
Vrai, incroyable.
Il a des moyens que personne n'a jamais eu au CAS de France et qui finit au même stade que les autres avant, qu'il y a 4 ans. Donc c'est très très drôle. Franchement, c'est succulent, je vous le conseille.
Alors que Guy Noves avec 2-3 briques, il te fait une maison.
Et voilà, c'est ça.
Et puis braque.
Finalement, hein. Mais voilà, c'est très intéressant et on sent déjà que les langues commencent à se délier dans le top 14 et on sent que Ça va être 4 années assez rigolotes pour nous.
C'est le rugby français, c'est pour ça qu'on aime le suivre aussi. Quoi.
Exactement,
c'est...
tout à fait. En attendant, je voudrais revenir un peu sur ce match, parce que cette situation finalement avec le 15 de France qui fait le grand chelem en 2022 et se foire en 2023, nous rappelle un peu ce qui s'est passé il y a 20 ans, quand la France était imbattable en 2002 et s'est faite sortir en 2003 d'une Coupe du Monde que tout le monde voyait, ou tout le monde la voyait gagner.
Ah bon?
Moi, en tout cas,
non, tout le monde voit
moi j'avais 11 ans et tout... je me rappelle, j'ai dit papa, ils vont la gagner.
Non, l'Angleterre est dominée quand même le rugby mondial. Non,
mais on va en discuter justement, Riwan. D'après toi, est-ce que c'est la plus grande désillusion de l'histoire du 15 de France?
Je dirais non, puisqu'on a perdu en quart de finale. Donc, enfin, c'est comme si tu tentes de monter l'Everest et puis tu montes sur un caillou et tu t'arrêtes. C'est pas vraiment. C'est pire quand t'es en finale ou quand t'es en demi-finale. Après, bah, au vu du potentiel, oui, c'est sûr que c'était peut-être la Coupe du Monde qu'on pouvait gagner. C'était chez nous, donc c'est décevant. Mais
donc, si c'était pas, c'était quoi pour toi la plus grande désillusion alors, si c'était pas 2023?
Bah, peut-être plutôt 2011 quand même, ouais, parce que c'est vraiment le match où tout le monde l'a dit, on a battu Nouvelle-Zélande, sauf au tableau d'affichage, quoi.
Oui, mais enfin, 2011, c'est aussi la Coupe du Monde.
Et je parle pas de l'arbitrage.
Est-ce qu'on n'aurait pas honte de cette Coupe du Monde aujourd'hui en 2011?
Non. Mais c'est le rugby aussi. Des fois, c'est des équipes dégueulasses qui gagnent. Hein.
Comme
l'Angleterre cette année, par exemple.
Oui, bah, je vais y venir.
Non, mais j'ai pas souvenir d'une équipe dégueulasse qui a gagné une Coupe du Monde.
Bah, non, mais attends, la France en 2011, c'était pas dégueulasse.
La plus limite,
c'était. Sur le papier, c'était pas dégueulasse. Après,
l'Afrique du Sud 95, de ce que j'ai vu, oui. C'est pas incroyable. Hein.
C'est... Il y a des petits arrangements avec l'arbitrage. On a
allez,
tout parlé de l'arbitrage.
C'est parti. Tu veux dire quelque chose sur l'arbitrage de France-Afrique du Sud 2023?
Je sais pas, est-ce qu'on a le droit d'en parler?
Parle-en.
Non, bah moi je suis plutôt d'accord avec Antoine Dupont, c'est tout.
D'accord.
Je l'ai pas trouvé très je trouve qu'il est cohérent sur le match. Je trouve qu'il est pas cohérent avec ce qu'on voit depuis un an et demi dans le rugby mondial. Enfin, j'ai pas trop compris. Mais dès le début du match, et c'est là qu'on peut après discuter sur ça n'enlève rien encore une fois à toutes les erreurs, les premiers responsables, etc.
On n'attaque pas l'homme.
Non, mais surtout
un arbitre a le droit de faire un mauvais match.
Voilà, bah moi je trouve qu'il a pas fait un très bon match. En tout cas, je trouve qu'il a pas fait j'ai pas compris. Alors, on en rigole souvent à la boucherie, on comprend pas les règles, etc. Ça change tout le temps. Mais le problème, c'est que moi, si tu m'expliques un truc une semaine et que la semaine d'après, tu m'expliques le contraire, enfin, je veux bien être gentil, mais au bout d'un moment, ça devient incompréhensible pour tout le monde. Et je trouve qu'il a pas arbitré de manière cohérente par rapport à ce qu'on voit depuis un an. Quand tu vois le France-Italie d'il y a 9 mois, on prend 20 pénalités parce que dès qu'on met les mains dans un ruck, dès qu'il y a un mec qui traîne un peu, il est pénalisé dans la seconde. Même les premiers matchs de la Coupe du Monde.
Recontextualiser, tu vois, c'est le premier match du tournoi, il y a eu des directives et ils les ont abandonnées la semaine d'après. Donc,
Oui, d'accord, mais il n'empêche que les Français, enfin, tu vois, tu regardes de la prépa de cet été, tu les vois travailler sur attention, surtout, on met d'abord les mains sur le ballon, on met pas les mains, tu vois, au sol avant, machin.
Tu
vois même.
Une action, il y a eu les mains au sol.
Non, mais il y en a eu plusieurs, en fait, ce qui fait que. Encore une fois, dans l'approche qu'il a eu du match, moi, il a été cohérent, je trouve, de la première minute à la 80e minute, c'est-à-dire qu'il a laissé plus ou moins le jeu se dérouler. Et
il l'a dit.
Oui.
Il l'a dit aux joueurs qu'il laissait le jeu dérouler. Seulement qu'Antoine Dupont n'était pas content et qu'il a dit non, je veux que ça se passe.
Oui, mais sauf qu'en fait, tu peux pas. Enfin, tu vois, c'est chiant quand t'es joueur de juste. Tu sais pas pourquoi le mec décide d'arbitrer comme il y a un an et demi.
Non, tu le sais, puisqu'il l'a dit. Mais il le dit.
En plus, on l'a déjà eu.
C'est Antoine Dupont de dire au gars, bah les gars, allez dans les recs.
Ouais, non, mais
faites
sauf
les méchants.
Fait,
jusqu'à ce qu'on se fasse punir, allez dans les recs.
Que ça, c'est facile à dire, mais sauf que sa façon d'arbitrer n'a pas avantagé les Sud-Africains dans le sens où je pense pas qu'il ait pris parti pour les Sud-Africains et qu'il les a arbitrés positivement. Oui. Mais je pense que ça a favorisé leur style de jeu. C'est-à-dire que pendant 60 minutes, on les domine, ils sont au bord de la rupture, ils sont limite tout le temps et ils ne les sifflent jamais.
Oui, mais.
Et
moi,
du coup, forcément.
Ce qui m'énerve un peu avec tout ça, parce qu'on ouvre le dossier de l'arbitrage,
vas-y.
Je le prends, il est tout poussiéreux, je les suis un peu, c'est parti. Mais tu peux dire à l'arbitre, tu peux dire d'un arbitre qu'il a avantagé une équipe à une autre, si sur deux situations
il
identiques.
Il n'a pas avantagé une.
Non, mais. Si sur deux situations identiques, il a sifflé faute pour une équipe et pas pour l'autre. La France n'a jamais tenté quoi que ce soit dans les rucks.
Je suis d'accord, mais sauf que la France n'avait pas à le faire.
Le petit faillot du premier rang à dire mais le règlement il dit qu'il faut faire ça, alors on fait ça.
C'est pas vrai.
Non,
c'est pas vrai.
C'est Danty qui parle à l'arbitre.
On a joué comme des Japonais, c'était une tactique.
C'est pas vrai, parce qu'en fait la France a eu la main sur le ballon pendant 60 minutes, ils n'avaient pas pourrir des rucks qu'eux-mêmes, ils étaient à l'origine, ils avançaient, etc. Donc effectivement, il aurait fallu refaire de la dépossession en plein milieu.
Pourquoi la France a arrêté de faire la dépossession?
Mais parce qu'il y a 9 mois, on a constaté que ça ne pouvait plus marcher. marché avec les nouvelles directives qu'on a mises en
place. Il se trouve que
place.
Pour l'Afrique du Sud, ça a très bien marché.
Oui, d'accord, mais est-ce que c'était vrai? Alors, évidemment qu'il y avait une part de volontaire, mais juste, je pense pas qu'ils se soient fait marcher sur la gueule pendant 60 minutes avec plaisir. Je pense qu'il y a un moment où juste ils étaient à la limite, et sauf que tu mets Wayne Barnes sur le même match, il siffle 3 pénalités ou 4 pénalités en première mi-temps.
Parce que Wayne Barnes, c'est lui qui a arbitré le dernier France-Irlande, où dans les rucks, c'était la même chose, tu vois. Donc,
ouais, mais sauf que les Irlandais nous marchaient dessus, donc en fait, tu vois, on a été moins pénalisés.
Il y a aussi eu beaucoup de polémiques à l'époque, quoi. À chaque fois qu'on perd, c'est quand même un peu l'arbitre.
Oui,
tu vois,
mais c'est pas pareil. Enfin, tu vois, la polémique du CMO.
Moi, je trouve
CMO
pas qu'il y ait une si grande différence d'arbitrage entre Barnes, entre Pepper et entre.
Bah, moi, franchement, alors. Kiff, hein.
Certes, il y a des petites nuances, peut-être, mais c'est pas.
Moi, j'ai vraiment dès les 5 ou 10 premières minutes du match de samedi soir, j'ai pas compris. Et dans les deux sens, parce qu'il y a des moments aussi où les Français étaient à la faute, ou en tout cas étaient très limites. Tu vois, sur des ballons qui sont gardés un peu longtemps au sol, alors que tu vois que le mec a les mains dessus, etc., où il siffle pas, et j'ai pas compris. Parce que, depuis le début de la Coupe du Monde, t'as l'impression qu'ils sont hyper tatillons sur ce truc-là, et ils l'ont dit pour favoriser l'attaque, machin, pour éviter que justement, tous les rucks soient pourris. Et tu regardes le match de la veille, Irlande-Nouvelle-Zélande, pourquoi t'as 30 temps de jeu au-delà du fait que les mecs soient techniquement genre irréprochables et que t'aies des soutiens offensifs qui soient très bons, ce qui a pas été le cas de la France d'ailleurs.
Oui, on peut le dire aussi, ça.
Mmh. Mais parce que en fait les mecs choisissent complètement les rucks sur lesquels ils vont disputer le ballon, parce qu'ils savent que s'ils sont un tout petit peu à la faute, s'ils ont le malheur de mettre une main, s'ils ont le malheur de tomber du mauvais côté, s'ils sortent pas assez vite, ils sont pénalisés. Donc les mecs, les deux défenses, tu vois qu'ils ont fait le choix de vraiment sélectionner les rucks sur lesquels ils vont disputer le ballon. Et par contre, quand ils y vont, en général, ça fait directement, tu vois, contest et turnover. Nous, le match de samedi, on a quand même des mecs comme Aldrit, comme Movaca, qui sont réputés d'anti, qui sont réputés pour gratter des ballons et qui, depuis 4 ans, enfin, ou en tout cas, depuis au moins un an et demi, nous font gagner beaucoup de ballons sur ces phases de jeu-là. Ça n'a jamais été récompensé pendant 60 minutes face à l'Afrique du Sud, à une ou deux reprises, tu vois. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a frustré, en fait. C'est pas tellement le fait qu'il a arbitré comme ça, parce qu'il a arbitré de A à Z, tu vois, de la même façon. C'est juste que j'ai pas eu l'impression de voir le même curseur d'arbitrage que depuis le début de la compétition. Et c'est pareil, et là, c'est pas de sa faute, mais plus la faute du TMO. Il y a des actions quand même, que ce soit le coup de coude dans la gueule, que ce soit l'action sur Danti qu'on n'a pas revu, mais où tu vois clairement, enfin je sais pas si vous l'avez vu passer sur Twitter le ralenti, parce que du coup personne ne l'a vu, mais il se fait éclater la pommette, tu vois le déblayage, le mec arrive, la tête la première dans le ruck,
par
le même gars qui est à Marseille, il l'a dit après le match, et tu vois les images, et tu te dis, mais
du toit.
Quel que soit le verdict de finale, mais depuis le début de la compétition, au début, je me rappelle qu'il y a eu des cartons rouges pour des trucs, des brindilles un peu, on se disait putain, rouge pour ça, c'est dur. Pendant le dernier tournoi, on a eu des arbitrages vidéo pendant je ne sais combien de temps sur des petits points de détail. Et là, il y a des actions où, bon, non, c'est bon, t'inquiète, joue. Moi, ça m'a surpris, vraiment la cohérence par rapport au.
Que World Rugby, justement, s'est rendu compte que. Oui. Un match de rugby était haché par des ralentis pendant 20 minutes et donc ils ont décidé d'en faire moins. Après, c'est la conséquence négative, c'est effectivement qu'il y a certains trucs qui ont pu être examinés.
Quel TMO,
le sont pas,
en fait, qui est là pour ça, qui est censé appeler l'arbitre de terrain et là il a pas fait son job. Enfin, je veux dire, le truc sur Danti, effectivement, je dis pas que c'est l'arbitre qui est sur le terrain qui est à 5 mètres du truc, ça va à 200 à l'heure, il y a 10 fautes par action, il doit sélectionner.
Je sais pas s'il l'a vu, hein. Oui, je pense. Sur le match, je l'ai pas vu la première fois, moi non plus. Hein,
il s'en plaint d'anti, enfin tu vois, bon. Mais c'est son boulot après.
Les arbitres sont des humains.
Oui, d'accord.
Ils regardent les matchs de début de la Coupe du Monde et ils voient bien.
Est-ce qu'il faudrait pas des robots arbitres?
Qu'est-ce qu'il dit que le BOC, il était pas devant Ben O'Keefe pour les initiés.
Le BOC.
Comme par hasard, comme le dit quelqu'un dans un certain bijou.
J'ai pas dit ça, non.
C'est pas toi qui as dit ça?
Je l'ai dit sur Twitter.
Ah, sur Twitter, pardon.
Sur mes trois tweets du week-end, j'ai
dit ça. Qu'est-ce qu'il dit que le BOC, il regardait pas certains matchs de la phase de poule en disant c'est pas possible de mettre un rouge pour ça, il faut que moi j'évite de hacher un match comme ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas un livre sur pattes, c'est pas un règlement sur pattes, l'arbitre, c'est aussi quelqu'un qui
interprète. Non, mais moi, je suis bien d'accord, mais sauf que moi, c'est la différence d'interprétation qui me choque, en fait. C'est pas, tu vois, qui l'interprète, évidemment,
mais alors, tu t'attaques à la grande élite, tu t'attaques à World Rugby, là.
Bah, je sais pas à qui est responsable de quoi, mais je trouve que encore une fois,
tu peux dire ça sur tous les matchs, par contre, d'accord.
Non, je trouve que depuis le début de la compétition, il y avait une suite à peu près logique sur la façon d'arbitrer. Alors, il y a eu des trucs sur des rouges, des jaunes, où tu te dis c'est un peu orange, machin. Il faut choisir. Mais par exemple, tu vois, moi je trouve pas que.
Sur le choc contre la tête, je suis d'accord. Sur les rucks, je suis pas d'accord.
Non, mais attends, le déblayage de Danti, c'est un choc tête contre tête, en fait.
Non, mais il y a une cohérence depuis le début de la compétition sur les chocs par rapport à la tête. Ça, oui. On est d'accord. Mais sur les rucks, On peut pas dire que depuis la Coupe du Monde, tous les rucks ont été jugés pareils sur tous les matchs.
Non, mais évidemment, parce qu'il y a une part interprétative. Et moi, je ne dis pas que, encore une fois, il y a des moments où ça s'est tombé du côté de la France. Mmh. Mais je trouve que entre sanctionner, tu vois, être hyper tatillon pour favoriser l'attaque, pour pas qu'il y ait des mecs qui traînent, etc., comme ça a été le cas régulièrement depuis 9 mois, et l'arbitrage qu'on a eu samedi avec quasiment aucune pénalité, ni d'un sens ni d'un autre, bah, je trouve que c'est pas cohérent. Et ça favorise pas l'Afrique du Sud, ça favorise l'équipe qui défend, en fait. Et du coup, là, il se trouve que c'était l'Afrique du Sud.
Et le spectacle.
Bah,
et le spectacle, bah, si, je suis désolé, si c'était un Nouvelle-Zélande d'Afrique du Sud que tu regardais, t'aurais été très content du match que tu as vu.
Si tu siffles dans les 10 premières minutes, tu pénalises deux fois les Sud-Africains parce qu'ils sont limite. Après, ils arrêtent et ça envoie beaucoup plus de jeux. Ils sont obligés de répondre par autre chose que de pourrir les rocks.
Le
match de Irlande-Nouvelle-Zélande, il était magnifique. T'avais 30 temps de jeu de suite, mais t'avais 30 jeux de suite parce que les rocks étaient hyper propres et que dès qu'ils étaient un peu limite, l'arbitre y pénalisait. Donc tu vois, c'est là que...
Bon. J'entends ce que tu dis.
Mais après, par contre, pour me désolidariser complètement de toutes les réactions qu'il y a pu avoir ce week-end, moi, il n'y a aucune faute flagrante de Ben O'Keefe qui m'a marqué. Je pense que, par exemple, en avant volontaire, c'est pas un avant volontaire. Je pense que la montée de Colby, elle n'est pas du tout choquante. Je pense que le jaune de Edzebeth...
c'est le débat.
Ça peut être jaune aussi, mais...
Ben O'Keefe, Craig Joubert, vous partez avec qui en week-end?
Bah, Ben O'Keefe, quand même.
Bah, Ben O'Keefe est beaucoup plus beau.
Non, mais Craig Joubert est en 2011.
On peut le dire, quand même, si on doit citer une qualité de Ben O'Keefe, il est bel homme.
Pas aussi beau que l'arbitre géorgien, quand même.
Ah, oui. Comment il s'appelle déjà?
Jvili. Arbitre Jvili.
Non, mais après, enfin, c'est un...
Pour clôturer le débat.
C'est un sujet super clivant, l'arbitrage. Enfin, c'est difficile, quand même, de regarder un match sans avoir certains biais. Tu vois, t'as toujours, tu supportes toujours un petit peu une équipe, même quand c'est pas ton équipe. Et tu regardes toujours plus certaines choses quand c'est
ça, c'est vrai.
Mais alors donc je pense qu'on peut pas, enfin je pense que c'est mieux en fait qu'on parle du conflit israélo-palestinien parce que c'est beaucoup moins passionné comme débat, voilà.
Non, mais
bah, pour terminer,
je suis d'accord avec le fait que, encore une fois, premièrement, c'est pas du tout la première cause de la défaite de la France et qu'il y avait 50 autres trucs à régler plutôt que l'arbitrage. Mais moi, je suis contre le truc aussi un peu qui est aussi démago que de tout pointer sur l'arbitre, qui est de dire l'arbitre ne fait pas partie du jeu, genre circuler, il n'y a rien à voir.
Non, mais
l'arbitre
fait partie du jeu, mais il y a un point et c'est un truc que tu peux pas maîtriser. Ça,
oui,
tu
c'est
pas...
un truc que tu peux pas maîtriser.
Il y avait des trucs qu'on
pouvait
maîtriser,
peut
peut-être parler plus tôt. Oui, non,
bon, les cocos, je vous remets dessus et on va passer à autre chose parce que là, je sens que c'est un débat sans fin. Moi, je veux juste prendre le mot de la fin parce que, vous êtes chez moi après tout.
C'est très,
juste
très beau, là,
rappeler aux gens qui ne s'intéressent pas au rugby que par le 15 de France et aux gens qui aiment profondément le rugby dans toutes les formes qu'il a, que tous les dimanches, s'il y a des matchs de leur équipe du coin, c'est parce qu'il y a des gens qui se cassent le cul à l'arbitrer. Et que, franchement, j'ai déjà vu en fédéral des comportements absolument scandaleux avec les arbitres et que c'est pas en crachant sur un arbitre que ça donnera envie aux jeunes générations de devenir arbitre derrière. Et je suis désolé, je fais mon Raphaël Poulin. Hein, vraiment là.
Non, vas-y.
Mais bon,
vas-y.
Mais faut penser aussi que les matchs du dimanche, c'est un peu parce qu'il y a des gens qui veulent devenir arbitre, on ne sait pas pourquoi, mais ils le veulent. Mm. Et ils ont le courage de le faire. Et je trouve qu'il faut un peu arrêter avec cette stigmatisation de l'arbitre parce qu'un jour ou l'autre, il va y arriver un moment. Ça arrive déjà dans certains comités où il n'y a plus assez d'arbitres et où des clubs doivent mettre la clé sous la porte parce que certains clubs sont obligés d'avoir un arbitre. Quand tu arrives à un niveau particulier, je crois que c'est la Fédérale 3, si je ne dis pas de bêtises, mais je dis peut-être des bêtises, mais tu es obligé d'avoir un arbitre licencié au club. Et un jour ou l'autre, votre club pourrait bien être relégué dans des divisions départementales à cause de ça.
Si je peux me permettre, on est juste trois connards dans une cuisine écoutés
par 3000
personnes.
Par
contre, les commentateurs de TF1 qui chient sur l'arbitre pendant 80 minutes, ils ont une responsabilité
contre,
et ce serait bien.
C'est pas contre vous deux que je dis
gaffe.
Ça. C'est contre ça. Trio, ils nous écoutent pas, mais bon, tu nous écoutes.
On t'invitera pas.
Voilà,
on t'invitera pas, tu es méchant.
Voilà. Puis, Dupont, il a touché un cheveu. Bref.
Mais alors.
Ne le touchez pas!
Bref, on va arrêter parce que là, je viens de rire.
Juste pour finir,
ça fait un moment que j'ai pas rigolé.
Est-ce que Antoine Dupont, sa sortie, vous cautionnez pas
sur l'arbitrage?
Ouais.
Il y a un moment, il y a un grand joueur dans toutes les équipes de France, c'est Zinedine Zidane. Il a fait beaucoup de merde sur un terrain, il s'est pris beaucoup de rouges, mais il a jamais dit du mal à l'arbitre en public. En tout cas, pas dans ma mémoire.
Moi, je pense qu'on peut pardonner un mec qui a chaud et très très déçu parce que pendant 4 ans, il
on
a
en revient à ça. On
en
revient à une question plus globale. À quoi servent ces conférences de presse après match d'un mec
Franchement, moi, je tiens à dire que, évidemment, sans forcément cautionner tout ce qu'il dit et la manière, etc., parce que c'est à chaud, je trouve que c'est, on peut pas reprocher tout le temps aux joueurs de sortir les éléments de langage et de rien dire, oui, et après de dire à un mec qui dit ce qu'il a sur le cœur, que ce soit vrai ou faux ou
globalement
voilà, intéressant
après,
ou non.
Moi j'ai réécouté le passage, enfin c'est pas forcément les citations qui sont sorties quoi, enfin
oui, non, mais...
on lui demande vous pensez quoi de l'arbitrage, il dit et vous vous en avez pensé quoi,
non mais après il dit
peut-être
qu'il pas été
il a dit peut-être il a pas été auteur, il dit peut-être il est pas totalement affirmatif parce qu'il sait lui-même qu'il est
très globalement j'apprécie des joueurs pour ce qu'ils font sur un terrain, pas pour ce qu'ils balancent après un match. On va refermer ce chapitre très... Je sens que vous avez... ça a un peu réveillé un peu des choses au fond de vous. C'était très intéressant.
Je sais pas si c'était très intéressant.
Si, c'est... je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, dans l'état où je suis actuellement, je trouve que c'est très intéressant. Le montage, je couperai. Mais... merci le best. Les auditeurs, on n'hésite pas à nous appeler au 01 77 32 00 pour donner son avis dans la libre antenne. Vas-y.
Juste pour apaiser le débat de manière un peu plus pragmatique.
C'est toi, je vais rater mon train.
Je tiens juste à rappeler que les Sud-Africains sont des gros dopés, voilà. Donc,
voilà.
Au-delà, c'est la première, c'est ça la première, c'est ça la première cause de la défaite de la France, c'est que les Sud-Africains sont des gros dopés.
Comme j'ai voilà.
Et oui, non, mais c'est pas pareil quand c'est un Français.
C'est vrai.
Est-ce qu'on peut parler de Jesse Krill quand même? C'est un YouTuber muscu, ce mec. C'est pas un genre de rugby, quoi.
Comme c'est pas lui qui fait le
il a des muscles partout.
Comme notre prochain invité dans le podcast, par exemple.
Damn.
Damn.
Il est là. Il va arriver.
On finit juste ce chapitre sur. La question, je veux que ce soit oui, non et une année derrière. Compris, Bastien ? Est-ce que c'est la plus grande désillusion de l'histoire du 15 de France ?
Oui, non, 1837.
Merci beaucoup, c'est vrai que l'élection de Léon Blum, c'était quelque chose quand même. Sinon, tu veux pas
non, bah si, vas-y, mais
allez,
alors.
Bah,
du
vas-y.
Coup,
mais est-ce que c'est la plus grande désillusion
oui,
de l'histoire
non,
du 15 de France ?
Oui, non, 2011.
Oui, non, non.
Oui, non.
Oui, non, mais oui, non, c'est pas une réponse, c'est seulement vrai. Oui ou non.
Non.
Oui.
2007.
Pour moi, c'est 2003.
Non.
Si.
Oh, 2007, on gagne pas la finale, je pense.
Ouais, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'après le quart que tu fais, perdre de cette manière contre les Anglais, tu tombes de très très haut. Même si tu perds au final après le match d'après, tu prends quand même encore une fois à domicile et tout ça. Donc,
Après, t'as eu la défaite contre l'Argentine déjà qui t'a un peu calmé les ardeurs, quoi.
Ouais, ouais, mais sauf que t'as ce match avant contre les All Blacks qui est mythique.
Oui, bien sûr.
Et qui du coup te fait d'un coup.
On a pas
alors que là,
on a pas eu de match mythique.
Franchement, là, la Coupe du Monde de la France est assez insignifiante.
Si tu veux reparler d'arbitrage, le quart de finale.
Mais c'est sûr.
Il y a des choses qui vont un peu dans le sens.
C'est sûr.
Le Nouvelle-Zélande 2007,
je reconnais volontiers.
Le dernier exploit français en Coupe du Monde, c'est Nouvelle-Zélande 2007.
Oui. Non, c'est quand on bat l'Argentine en 2019. Grâce à Camille Lopez, qui sera bientôt dans notre podcast.
Non, c'est pas un exploit.
C'est pas un exploit. En poule en plus. Non, c'est quand on fait match nul contre l'Angleterre en 2019.
Oui, c'est ça, c'était incroyable.
Parce que je pense qu'on le gagnait pas forcément celui-là.
On va justement parler des autres rencontres, dont l'Angleterre. Puisqu'il y a eu trois autres matchs serrés dans ce week-end absolument fou. Et on va s'y intéresser dès maintenant. Parce que je vais vous dire quand même que moi, personnellement, j'ai vécu un des plus. Enfin, le week-end le plus incroyable en termes de rugby. Que ce soit des matchs de très haut niveau équilibrés et des matchs de merde équilibrés également. Et on va en parler tout de suite avec les autres quarts de finale. On commence avec Angleterre-Fidji, l'Angleterre qui l'a remporté 30 à 24 face aux Fidji dans une rencontre qui semblait pourtant offerte aux Anglais, avant que ces derniers ne baissent le pied et laissent un espoir aux Fidji. Bastien, qu'est-ce que tu as pensé de ce match Angleterre-Fidji ?
Pas grand-chose. Je faisais des cartons, pour être honnête, en le regardant. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai dit la semaine dernière dans le podcast, quoi. C'est que les Fidjiens, on les aime bien, mais... c'est décevant, quoi.
Oh là là, la condescendance.
Non, non, bah...
les bons sauvages, on les aime bien.
J'ai pas dit les bons sauvages. J'ai pas dit les bons sauvages, parce que j'aurais pu dire exactement la même chose des Irlandais contre la Nouvelle-Zélande. On les aime bien, mais juste à un moment...
totalement une post-coloniale, Bastien.
Ils vont se battre. Hein. Mais... vous voyez pas les regards qui se lancent depuis tout à l'heure, mais
le
là,
racisme
c'est...
anti-blanc a bon vent dans ce podcast, apparemment.
Bastien,
il s'appelle Bastien.
Progressivement de droite, voilà. Là, pour l'instant, il est au printemps républicain. Après, ça va dévirer un peu, mais voilà.
C'est vrai que
j'ai voté parti socialiste en 2017, donc je suis un peu...
Ah oui, t'es vraiment de droite.
Mais non, c'était les Sixers.
Oui, c'est vrai. Rewen, qu'est-ce que t'as pensé de ce match ?
Lequel, déjà ?
Fidji, Angleterre. Si t'écoutais un peu, au lieu de faire ton malin sur tes blagues.
Angleterre-Fidji.
Angleterre-Fidji.
Bah, c'était un match des Fidji, quoi. C'est un peu toujours la même chose.
Oh, la condescendance, mais... faut te déconstruire, mon vieux. Hein.
Oh, ça y est. C'est de bonne guerre, mais non, bah c'est un match où t'as des instants où tu crois qu'ils vont le faire, et tu te dis c'est pas loin, ils sont pas quand même pas mal, et puis en fait ils le font pas, quoi. Donc
tu voilà. Dis marquer des points.
Pardon.
Quand tu dis ils le font pas marquer des
c'est
points.
C'est ça, oui. Bah, oui. C'est pas une équipe qui joue vraiment comme une équipe, quoi. C'est
En vrai,
comme des joueurs qui courent tout droit et qui des fois lancent des ballons derrière et puis.
Mais c'est vrai, t'es incroyable sur ce match quand même avec Reynal. Reynal qui avait rien à foutre en quart de finale d'ailleurs, tant qu'on en parle de ça.
Pourquoi
Alors. Il était mauvais sur toute la phase de poule.
Ah ouais, donc toi les arbitres français, quand. Et le dimanche, les arbitres français qui se lèvent le dimanche pour.
Oui, mais
pour
les arbitres français.
Mathieu Reynal, il a commencé comme ça. Hein.
Quand ils font des mauvais matchs en phase de poule, ils ont rien à foutre.
Moi, je défendrai toujours les Français, puisque j'aime mon pays.
Parce qu'il a dit qu'il a pas voté Benoît Hamon en 2017. Il a pas dit pour qui il a voté.
C'est le jeu du podcast. Si vous trouvez pour qui j'ai voté.
Il a un prénom breton, il a voté pour une bretonne. On dit rien de plus.
Non.
Oh non.
Je peux pas te laisser rigoler que ça. D'habitude, j'aime l'humour, mais là.
Le masque de Val est tombé là. C'est... Là par contre.
Contrairement aux gens qui ont voté Benoît Hamon, j'ai voté pour la vraie gauche.
Oh là là.
François Fillon.
C'est ça.
Donc un petit justement ça on arrive parce qu'on va parler de l'Angleterre plus tard parce qu'ils sont qualifiés. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la Coupe du monde des Fidjiens selon vous?
Bah franchement avec un 10, moi je regrette qu'il n'y ait pas une terre alternative avec Caleb Mounds titulaire en 10 parce que je pense que ça change quand même un peu le scénario.
On n'arrête pas de dire ça mais ça se trouve on aurait vu qu'il était nul aussi, tu vois.
Non, parce qu'on l'a vu jouer quand même avant, il était pas nul.
C'était des tests match.
Oui, mais bon, après, il n'a pas joué 5 Coupes du Monde, c'est sûr, mais...
Rewan, qu'est-ce que tu retiens, toi, de...
Alors, moi, je retiens qu'ils chantent super bien, et j'espère qu'ils vont faire un CD de chant pour Noël.
Putain, c'est vrai qu'ils chantent très bien.
Non, mais en vrai, on est tous un peu déçus, parce qu'on est des hipsters de rugby, donc on attendait beaucoup d'eux, on les voyait tous en demi-finale, machin, mais au moment où les poules ont été faites, on a vu Australie, Pays de Galles, on s'est dit, les Fidji, ils passeront pas, quoi. Et finalement, ils sont qualifiés, ils sont allés jusqu'en quart. Ils étaient pas loin de gagner le match jusqu'à la dernière minute, quand même. Donc c'est plutôt positif, quoi.
Voilà,
c'est quand même un progrès. Et maintenant, ils ont une franchise en Super Rugby, ils ont des joueurs qui restent au pays, donc...
Ils te font peur.
J'espère qu'il va continuer à avoir une progrès. Bon, on vient d'apprendre que l'entraîneur ne restera pas, donc... Ce serait bien aussi d'avoir un entraîneur pendant plus de 2 mois. C'est un problème du rugby fidjien. Mais j'espère qu'ils vont continuer à progresser et que le rugby va se développer au Fidji. Et tant pis pour le CA Brive qui n'aura plus de joueurs, mais voilà.
Qui est déjà plus en top 14 de toute façon.
Je sais pas, je regarde pas.
On va bientôt en parler, tu es dans un monstre en train de se demander.
Je ne sais
alors,
pas.
Alors, est-ce que Perpignan va pouvoir se maintenir? C'est la vie qu'on a choisi de mener.
Guadeloupe.
En parlant de Guadeloupe. Mettons un petit coup de loupe sur le prochain quart de finale, Pays de Galles-Argentine. C'était pas le plus beau des quarts de finale, mais il a été très sympa à suivre avec une rencontre d'abord dominée par les Gallois, avant que les Argentins ne prennent les devants pour gagner 29-17, dans un stade Vélodrome bouillant et dans ce qui a été le quart de finale avec le plus gros écart de points. Bastien, qu'est-ce que tu as pensé de ce Pays de Galles-Argentine?
Je ne l'ai pas vu, car je signais des exemplaires de ciné illimité. Désolé.
Rowan l'a revu, lui, parce que lui, c'est le petit susboule du coin.
Et puis, j'ai vu trois fois France Afrique du Sud.
TF1.fr, j'ai un compte, je regarde Jean-Luc Reichmann. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'as fait?
Alors, je dis tout de suite que moi non plus, je n'ai pas vu ce match, puisque j'étais à la soirée de lancement de Ciné Limité. C'est
fou aussi, mais on a écrit dans le même livre.
On s'est rendu compte qu'on avait écrit dans le même livre, alors qu'on se connaissait pas avant le podcast de ce soir.
Bah oui, c'est vrai.
Et tu vois, finalement, on a eu un petit clash tout à l'heure, on a quand même des points communs.
C'est vrai.
Mais qui aime bien, châtie bien.
Ouais, c'est ça. Donc non, j'ai pas vu ce match, mais comme je suis consultant rugby, maintenant, je vais en parler quand même.
Deux différentes approches, du coup.
Moi, je trouve que le Pays de Galles est très bien rentré dans le match, notamment avec un essai très rapide. Mais petit à petit, leur jeu s'est délité. Je trouve que la charnière Mike Philippe James Hook a été un très mauvaise dans la gestion. Et en face, il y avait la Grinta argentine. Puis comme toujours, il faut se méfier de Rouanimov, le véritable renard des surfaces. Et c'était un match serré, mais je pense que l'équipe qui en voulait le plus a gagné. Donc bravo aux Pumas. Et il faudra se méfier d'eux en demi-finale, car à mon avis, le sélectionneur Mario Ledesma en a encore beaucoup sous la. Sous la raquette. Voilà.
L'Argentine a-t-elle été forte ou les Gallois sont-ils passés à côté de leur rencontre? Bastien, tu l'as pas vu, donc non. Une réponse au hasard.
Ils ont eu la Grinta.
Ils ont eu la Grinta, merci. Rewan.
Tu l'as pas vu non plus?
Si, il l'a vu 4 fois.
Non, il l'a pas
moi,
vu.
Moi, je pense qu'ils ont. Le Pays de Galles a perdu Taloupé, Faletao. Toby Faletao. J'ai essayé de citer son
Tom.
Prénom.
Terry.
Le T.
Et je pense que, en plus, là, j'ai cité un joueur qui joue vraiment toujours au Pays de Galles. Tu vois, c'est ça. Et du coup, ils ont perdu leur âme, leur meilleur joueur, et c'est pour ça qu'ils ont perdu.
Ok. Et on va tout de suite passer au match de légende de ces quarts de finale, celui dont on parlera dans 30 ans en disant j'y étais, j'ai vu les 45 temps de jeu. Irlande-Nouvelle-Zélande. L'Irlande qui n'a jamais mené lors de ce match remporté par les All Blacks sur le score de 28 à 24. Un nouvel échec pour les Irlandais en quart de finale. Quel est votre ressenti sur ce match, Bastien? Je sais que tu l'as vu celui-là.
Ouais, bah match incroyable. Hein. Mm. Match incroyable. Un peu triste pour les Irlandais quand même, parce que c'est un peu rude, tu vois, de perdre autant de fois en quart de finale. Mais,
8 fois sur 8.
Mais quel match? Quel match, mes amis?
Quel match?
Non, franchement, moi, je crois que ce qui m'a le plus scotché, c'est quand même la justesse technique, genre pendant 80 minutes. C'est-à-dire que, il a fallu attendre combien de temps pour avoir une mêlée, pour avoir un en avant, tu vois, alors que ça jouait quand même. Mais en tout cas, ça jouait à 200 à l'heure, encore une fois, avec 40 temps de jeu, chacun leur tour. Et que tu sois pilar ou arrière, il n'y a pas eu une faute de main, il n'y a pas eu. Enfin, vraiment, pour moi, c'était le plus beau match de cette Coupe du Monde. Et plus beau, franchement, que France-Afrique du Sud, tu vois, qui était pour le coup beaucoup plus haché. Beaucoup...
Justement, je pense que Willem C, à un moment, il fait un arrêt de volée là, contre la France. Oui. Il se dit. Non, je veux démêler ce soir, quoi. Je veux pas que ce soit comme l'Afrique du Sud.
Parce que ouais.
Quand il fait son marque, c'est ça, oui. Il demande la mêlée. Que...
C'était un moment incroyable.
Ouais,
j'avais pas souvenir en international d'avoir vu.
Non, mais il y avait que l'Afrique du Sud pour faire ça.
Et surtout la justification de Rassi Erasmus après. Il dit, on aime bien les mêlées, donc on s'est dit.
Genre... En vrai, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que tu voudrais rendre le ballon aux autres dans leur camp? Alors que si t'es sûr de ta mêlée, tu peux avoir un lancement de jeu dans tes 22. Quoi.
Bah, oui, mais après t'es dans tes 22, quoi. Donc faut être sûr de ton coup quand même.
Faut être sûr de ton coup, mais je pense qu'ils l'ont.
Ils
ont une raison.
Bravo. Oui, après, tu vois, c'est une façon aussi de dire à l'adversaire de baisser son short et de dire admire mes couilles, elles sont grosses, elles sont luisantes.
Tu vas monter ton short, s'il te plaît.
Oui, bah, les spectateurs voient pas, mais effectivement, les miennes sont.
Luisantes.
Elles sont pas très grosses, mais elles sont luisantes. Oui.
Est-ce que Rewan, qu'est-ce que t'as pensé de ce match, ça, c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande?
Bah c'est, non, comme Bastien, moi c'est le match. On sortait de notre dédicace de sérénité.
Je peux pas t'empêcher de parler de ton livre.
Ciné illimité, pardon. Et donc ce match, je ne l'ai pas vu pour le boulot, je l'ai vu juste pour le pur plaisir. Et je l'ai pas spécialement.
Le plaisir pour le passage de vous retourner vers moi à chaque essai néo-zélandais.
Oui, c'est ça, oui, notamment. Oui. Parce que tu portais un magnifique maillot irlandais.
Voilà,
mais oui, non, bah, j'ai débranché mon cerveau, j'ai juste regardé le spectacle, c'était incroyable. Donc j'ai pas spécialement d'anis, parce que je ne l'ai pas revu.
Non,
et je crois que j'ai même pas envie de le revoir, parce que c'était juste génial en fait. Et bah, Nouvelle-Zélande, un peu comme l'Afrique du Sud, ils étaient. Clinique, comme disaient les consultants Canal+.
Est-ce qu'on revient, c'est à quel moment qu'on revient sur les pronos de l'épisode d'avant et qu'on
alors là, c'est maintenant parce que j'ai pas prévu. Donc
ah, d'accord.
Fais-le.
Donc, effectivement, moi, j'avais pronostiqué la Nouvelle-Zélande. Là, voilà.
De toute façon, Rewan, ça va aller vite. T'es quoi de juste?
Zéro.
Voilà. Moi,
zéro.
Moi, j'avais fait 3 sur 4. On ne dira pas quel est.
Moi, j'ai fait le grand chelem.
T'as fait le grand chelem.
Il était possible.
Mais moi j'avais pronostiqué la Nouvelle-Zélande en disant ouais attention la Nouvelle-Zélande ça reste la Nouvelle-Zélande. J'avoue que j'avais pas anticipé que ça serait à ce point-là. Et franchement c'est assez incroyable quand même la transformation. Alors je sais pas s'ils réussiront à maintenir ce niveau de jeu sur les 1 ou 2 matchs qui leur restent, mais bonne chance pour aller taper s'ils jouent comme ça tu vois pendant 15 jours là. Hein.
Mais c'est vrai que en plus ça rejoint un peu ce que là où je voulais en venir dans cet épisode, parce que n'en déplaise à une personnalité qui a malheureusement perdu l'habitude de ne pas donner son avis. Le rugby se joue toujours à 15 contre 15. Pourtant, à la fin, c'est souvent l'équipe de l'hémisphère sud qui gagne les matchs à élimination directe. Et donc, moi, j'ai une question, parce que là, on arrive à nouveau dans ce constat. Tout le monde disait « Ah, tiens, il va y avoir des demi-finales 100% hémisphère nord, ça va être incroyable, nanana. » Et on se retrouve avec 3 équipes de l'hémisphère sud en demi-finale. Pourquoi est-ce que c'est toujours l'hémisphère sud qui gagne dans les Coupes du Monde en phase finale, qui gagne les matchs, même quand l'hémisphère nord est favori? Est-ce que vous avez une réponse à ça?
Personnellement, je pense que c'est parce qu'ils marquent plus de points que leur adversaire en quart de finale.
Oui, mais alors pourquoi est-ce que on changerait pas le barème? On dit un essai à l'hémisphère sud c'est 2 et un essai à l'hémisphère nord c'est 10 points.
C'est
alors,
peut-être une solution.
On change les hémisphères. On dit à l'Invasion c'est dans l'hémisphère nord.
On retourne
et là, les mecs, ils savent plus quoi faire.
Déjà, on parle des hémisphères.
Déjà, ils ont la tête en bas. Déjà, ils ont la tête en bas, donc ils ont le cerveau qui afflue, le sang qui afflue.
Et du coup, ils ont des stratégies qu'on n'a pas, nous.
Bah, c'est sûr.
Parce que nous, c'est tout dans les pieds. Donc, on a Damien Penaud qui court très vite. Mais en fait, le sang ne va pas dans notre cerveau, quoi. C'est très compliqué.
Non, mais je sais pas si t'as une explication, toi, Rion, mais
je t'avoue, absolument. J'ai lu cette question sur le sommaire de l'émission que tu nous envoies gentiment.
On prépare cette émission, tu veux dire, en avance.
Et je n'ai absolument aucune réponse à cette question.
D'accord. Non, mais moi je pense
comme dirait Frédéric Michelac, je ne sais vraiment pas quoi dire, donc tu te démerdes et tu dis ce que tu veux.
Yeah, he said it was a really good question, and he thinks that we should do it more often in the summary of the podcast.
Non, mais en plus, si on y réfléchit tous ensemble en se prenant par la main comme des bons macronistes, genre on pourrait avoir des post-it, par exemple. Les nations de l'hémisphère sud n'ont pas plus de matchs à élimination directe que nous. Au contraire, nos joueurs, ils ont peut-être le top 14 avec, tu vois, les barrages, les machins, les huitièmes de finale,
aussi,
le maintien. T'as en Coupe d'Europe, t'as des quarts de finale, des demi-finales, etc.
Donc, tiens vraiment à la main là, c'est très gênant.
J'ai du mal à.
Tu touches pas vite.
Arrêter. J'ai du mal à voir pourquoi l'hémisphère sud serait avantagé sur les matchs à élimination directe.
Moi, si je peux tenter une analyse. On a des équipes très très fortes, l'Afrique du Sud, la France, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande. Il y en a deux qui ont gagné. Il se trouve qu'elles étaient dans l'hémisphère sud.
Donc c'est une pure histoire de probabilité.
Mais c'est juste une histoire de géographie, ça n'a rien à voir avec le rugby en
fait. Très bien.
Et tes questions est vraiment nulle à chier.
Non mais par contre,
tu es le pire animateur que j'ai jamais vu.
Avant de passer aux demi-finales qui nous attendent, on va écouter une nouvelle chronique, celle de Damien Traille.
Bonjour à tous. J'espère que vous passez une agréable pire semaine de l'année 2023. Mais dites-vous bien que ça pourrait être pire, puisque le top 14 n'a pas encore repris. Maintenant que cette Coupe du Monde est terminée, on va pouvoir retrouver l'usage de nos soirées. Et comme personnellement, j'ai pas prévu d'en faire quelque chose de constructif, j'ai donc jeté un œil sur le programme télé du week-end prochain. Et voici ma sélection. Alors vendredi soir, j'ai choisi pour vous Enquête d'Action à 21h05 sur W9. Le résumé. Les violences et les agressions explosent ces dernières années. Pour intervenir et garantir la sécurité des civils, le psyg sabre de Draguignan dans le Var s'entraîne aux situations les plus conflictuelles. Combats au corps à corps, technique de MMA, rien n'est laissé au hasard. C'est l'unité la plus entraînée de France. Le chef Nicolas est amené à agir lors d'une rixe. Entre un mari et femme. Alors, des agressions, des gendarmes varois, dont probablement du racisme, et même des violences conjugales, c'est exactement comme au rugby, ça aidera à faire une transition en douceur pour le retour de la vraie vie. Et samedi soir sur la 3, à 21h10, meurtre à Toulouse. Plusieurs cadavres sont retrouvés sur différentes places de Toulouse. L'enquête est confiée au commandant Simon Keller, un homme meurtri par la vie, joué par Lionel Astier. Il sera assisté par Cécile Gimet, sortie major de l'école de police. C'est sa première enquête sur le terrain. Ensemble, ils découvrent que les meurtres auraient un lien avec les paroles d'une chanson de Claude Nougaro. Alors, ça m'a l'air incroyable. Il manque que la bande-son de Big Flo et Oli et Guy Noves dans le rôle de trois doigts, un indique mutilé par la mafia occitane. Les gars, il y a même Yvan le Bolloc, quoi. Allez, à dans 4 ans et d'ici là, évitez les voyages dans l'espace. Visiblement, la ceinture de Van Allen, ça grille les neurones.
Oh, ça dénonce.
Alors là, il a sorti la sulfateuse, notre ami Damien Traille. C'était très très drôle. Et bravo, comme quoi, lui. Vraiment, on confirme un nouveau. Enfin, on confirme le dernier principe de la boucherie. On est drôle quand on parle pas de rugby. Merci en tout cas, Damien, pour cette très belle chronique. C'était très très drôle.
Excellente chronique.
Excellente chronique. Et on va passer
un banger.
Demi-finale. Vendredi et samedi, beaucoup de Français auront déjà oublié qu'il y a une Coupe du Monde dans l'Hexagone. Et pourtant, même si les Bleus ne s'y trouvent pas. Ces demi-finales pourraient être très intéressantes à suivre.
Non.
Ok, pourquoi? Allez, je te prends un dépourvu.
Parce qu'ils sont très déséquilibrés, peut-être.
Alors, on va en parler, justement. Argentine-Nouvelle-Zélande, on ne sait pas pourquoi, mais elle est encore là. L'Argentine est dans le dernier carré grâce à un tableau plus favorable que les autres, certes. Mais peut-être elle va réaliser l'exploit de battre les All Blacks.
Non.
Qui semblent devenus imbattables comme l'Argentine l'a fait en 2020 ou en 2022. Seule victoire sud-américaine parmi les 36 confrontations qu'il y a eu dans l'histoire. Il y a aussi Angleterre-Afrique du Sud, l'Angleterre qui est la dernière équipe invaincue de ce mondial, on ne l'oublie pas. Mais elle est aussi la dernière équipe de l'hémisphère nord encore en course. Qui aurait pu prédire, comme dirait le Mac. En 45 rencontres, le 15 de la Rose n'a battu les Springboks que 16 fois. Et ce sont ces mêmes Sud-Africains qui ont battu les Anglais en finale il y a 4 ans et en 2007 à Saint-Denis. Alors, est-ce que les Anglais pourront créer l'exploit? Mais surtout, ma vraie question, c'est est-ce qu'on va voir des rencontres déséquilibrées? Bastien.
Sur le papier, oui, quand même. Tout crie au massacre, quoi.
Massacre.
Ah, je l'avais prévenu, hein. C'est pas faute d'avoir dit, mais bon. Après, le rugby a ses raisons que le sens commun ignore.
Oh.
Oh. J'ai pas vraiment d'avis sur la question. À part, si tu me demandes de pronostiquer, je sais évidemment qui je mets en pronostic.
Vas-y, c'est parti, Argentine-Nouvelle-Zélande.
Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, enfin, tu vois.
Du coup, ça sera déséquilibré, du coup.
Oui, c'est ce que j'ai commencé par dire.
Oui, mais t'as...
Mais j'ai dit aussi, le rugby, tu vois, on
peut... Voilà. oh, François Bayrou, là, oh, tu veux prendre un avis tranché un
en
peu,
même temps, voilà, peut-être
tout,
que...
Il faut aider les entreprises.
Ça fait Bruno Le Maire, là.
C'est Bruno Le Maire.
Ah, c'était Bruno Le Maire.
Son petit renflement brun.
On va couper ça, je
pense. Riwan.
moi, je dis méfiance. Notamment concernant l'Angleterre, hein. Parce que rappelez-vous, il y a 4 ans, même stade de la compétition, même les gens les plus farouchement xénophobes, donc 99% des Français, ils avaient tous reconnu que l'Angleterre avait fait un match incroyable en demi-finale. Et donc voilà, je pense que cette équipe, elle est peut-être encore là. Les joueurs, c'est à peu près les mêmes. Hein. Elle est peut-être cachée. Tu sais, c'est peut-être le géant endormi de cette Coupe du Monde. Mais donc voilà, s'ils affrontent les Bucks, donc comme tu l'as dit, c'est le remake de la finale de il y a 4 ans. Je pense qu'ils sont. Qu'ils ont quand même, ils en ont gros sur la patate parce que tout le monde disait ils étaient favoris, ils allaient gagner après leur demi-finale incroyable et ils se sont fait battre platement, on peut le dire. Donc moi, je pense qu'il y a des chances que. Il y a des chances qu'ils gagnent, voilà, tout simplement. Et vous avez vu au dernier podcast mais la qualité de mes pronostics. Donc, ils vont probablement en prendre 60.
Rapidement, on va pas partir sur le niveau sportif, vraiment sur le niveau. Le cœur.
Le cœur.
Qui vous avez envie de voir gagner cette Coupe du Monde parmi les 4 qui restent ? Bastien.
Nouvelle-Zélande.
Riwan ?
Moi, j'ai toujours été fan du rugby sud-africain. Donc,
Mais notamment d'un joueur.
Oui, Quagga Smith.
Ah, t'as même pas encore dit son nom, j'étais inquiet.
Mon Quagga sûr.
C'est celle que tu préfères, t'as le droit de le dire. Hein.
Oui, c'est ça.
On est au pays des droits de l'homme. T'as
après,
le
j'aurais préféré que la France gagne parce que je suis quand même.
Oui,
un
mais
peu
la
français.
France est éliminée, donc ouais. On passe à autre chose maintenant.
Et puis, tu vois, par le système de santé, il est quand même pas mal. Tu vois. moi, je suis diabétique et tu vois, il me paye l'insuline et tout, donc merci la France. Mais l'Afrique du Sud, quand même, petit crush.
Ok. Est-ce que vous êtes encore excité par cette Coupe du Monde, messieurs? Une réponse, voilà, comme ça, rapide. Est-ce que vous êtes. Impatient de voir la demi-finale ce week-end, parce que franchement, vous dites, bon, maintenant, il y a du rugby à télé, je regarde. De toute façon, c'est Four Nations, quasiment. Donc, est-ce que je regarde ça, ou voilà, Bastien.
Franchement, là, 4 jours après l'élimination, non, je suis pas très excité.
Moi, oui, bah, il y a encore 4 très beaux matchs à voir.
4, t'es sûr, il y a les plus matchs pour la troisième place, quand même.
La petite finale sera marrant. Mais oui, non, bah, souvenez-vous quand même qu'après, c'est le top 14. Donc, profitez bien de ce qui reste. Et puis, moi, je vais développer, même si tu m'as dit de répondre rapidement.
Mais développe.
Non, mais c'est malheur à dire, mais l'élimination de la France, c'est presque un soulagement pour moi, tu vois. Enfin, autre François Trio qui est tellement nationaliste que même à Sud Radio, ils ont trouvé qu'il avait abusé. Enfin, voilà, c'est. T'as ça, t'as les débats à la con sur les réseaux sociaux. Ils ont parlé de rugby, n'en touche pas à mon poste.
Ah oui.
Chez Hanouna, apparemment hier, j'ai pas voulu regarder, mais. Donc, bah, voilà.
L'arbitre surtout, non?
Sans doute, mais enfin tout ça me fait dire qu'en fait la France méritait pas son France 98 quoi. Enfin on n'est pas prêt, on est beaucoup trop con. Donc qu'il y ait une suite de compétitions sans la France, ce sera apaisé, ce sera tranquille, ce sera entre connaisseurs, n'est-ce pas? Parce que nous on est les vrais connaisseurs de jeu, c'est bien connu. Et donc moi je suis enthousiaste.
Je suis aussi, moi. J'avoue que ce côté un peu sortir, parce que moi, j'espère que la France ou l'Irlande gagnent.
Non, mais on va aller à la fan zone de la Concorde, on sera deux.
On aura toute la place.
Et
de la
on va demander une bière, et on
fera des
oui,
pirouettes.
On aura la bière tout de suite. C'est incroyable.
On fera des pirouettes,
quoi.
On fera des grandes roues, c'est incroyable. mais oui, je suis assez excité, parce que cette pression de. Bah, clairement, mon cœur est mort ce week-end, donc je suis très heureux de pouvoir.
Revivre.
Être un zombie de l'amour.
Est-ce qu'on va chanter zombie?
Et surtout, bah, écoutez, puisqu'on parle de joie et de bonne humeur, on va terminer cet épisode dans la joie et la mauvaise foi avec un jeu sorti de ma besace. Regardez, elle est là.
Oh, quelle belle besace.
Je sors mon jeu. Le jeu s'appelle « De quoi il parle l'autre débile ?»
Ah.
Eh oui, c'est un c'est nouveau
la...
jeu.
Et bon, on joue pas au jeu depuis le début de l'émission, là.
C'est un jeu et je vais vous donner différentes réponses qui ont en commun une question. Et vous, votre jeu, ça va être de trouver la question.
De la réponse.
Voilà, des réponses. C'est une question qui est forcément en rapport avec la Coupe du Monde et ce sera à vous de la trouver. Si vous trouvez la question dès la première réponse que je vous donne, vous marquez 5 points. Si vous le trouvez dès la deuxième réponse, vous marquez 4 points. Ensuite 3 points, 2 points, 1 point. Est-ce que vous avez compris à peu près le concept?
Ouais, on a le droit de rejouer à chaque
tour. Par exemple, je veux dire Bastien, Riwan, Antoine. Et là, la question, ce sera
qui anime
est présent autour de la table. Non, okay. Non, les 3 sont des bonnes réponses. Donc
oui, d'accord.
Qui est présent autour de la table. T'animes pas le podcast, frérot.
Oui, c'est vrai. Qui participe au podcast.
On n'est pas le droit de répondre deux fois sur un même élément de réponse. C'est-à-dire que si je vous donne une réponse et vous tentez quelque chose, vous devez attendre la prochaine réponse pour pouvoir ouais. donner votre question à nouveau. Est-ce que c'est clair?
C'est clair.
On va commencer avec un truc très simple. Donc là, si vous trouvez la question juste avec ce que je vais vous dire, vous marquez 5 points. Roumanie.
Est-ce qu'il faut dire notre nom
Oui, vous dites votre prénom parce que c'est un peu de la rapidité aussi. Roumanie.
Bastien.
Oui.
Quelle équipe a encaissé le plus de points depuis le début de la Coupe du Monde?
Non. Roumanie.
Riwan.
Oui.
Quelle équipe vient d'un pays nul?
Maintenant, si vous trouvez la bonne réponse, c'est pour 4 points. Oui. Roumanie, Tonga.
Ah oui, ok.
Quel match Riwan. N'avait aucun enjeu?
Non. Je passe aux 3 points. Alors,
attends, parce que, est-ce que ça peut être un truc des, progressif, un peu genre. Je sais pas comment expliquer.
Il y a 5 réponses, elles ont toutes en commun une question.
Ah, elles ont en commun. Ah, une question. Bastien, quelles équipes ont marqué le moins d'essais depuis le début de la Coupe du Monde?
Non. Pour 3 points, Roumanie, Tonga, Afrique du Sud.
Riwan.
Oh, oui.
Quelles équipes se trouvaient dans la poule B?
Non.
Techniquement, c'est vrai.
Oui, mais c'est pas. Ça ne correspond pas aux 5 réponses. Pour 2 points, Roumanie, Tonga, Afrique du Sud, Écosse.
Même réponse.
Oui, mais il y a 5 réponses. Tu ne connais pas la dernière?
Bah, Irlande.
Roumanie, Tonga, Afrique du Sud, Écosse. Pour 1 point. Roumanie, Tonga, Afrique du Sud, Écosse, Nouvelle-Zélande. Roumanie, Tonga, Afrique du Sud, Écosse, Nouvelle-Zélande.
Quel point commun.
Je vais vous aider.
C'est censé être facile, ça.
Je vais vous aider, c'est chronologique. Il y a d'abord la Roumanie, après les Tonga, après l'Afrique du Sud, après l'Écosse et après la Nouvelle-Zélande. Eh ben les cocos.
Bastien, oui. Quelles équipes ont eu le droit à une semaine de repos
Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Il n'y aura pas une 6e équipe dans ce truc.
Ah, le nombre d'équipes qui ont affronté l'Irlande.
C'est une bonne réponse, les équipes que l'Irlande a affrontées dans cette Coupe du Monde. Un point pour Riwan.
C'était tellement nul comme question que c'était dur à trouver.
Eh ben, vous allez passer un très bon moment parce que tout le jeu est comme ça. Deuxième question pour 5 points. Winnie Antonio.
Si on dit de la merde, ça compte pas. Ça...
C'est pas grave, tu pourras. Enfin, juste que t'attends lundi suivant pour répondre.
D'accord. Bah, qui est le plus gros pilier de l'équipe de France?
Bastien, quel joueur de l'équipe de France a disputé le plus de minutes dans cette Coupe du Monde?
Non. Pour 4 points, Winnie Antonio, Romain Taufifénois.
Il y a un truc sur le poids quand même, je pense. Hein.
Winnie Antonio, Romain Taufifénois.
Riwan, quels sont les deux joueurs les plus lourds de la Coupe du Monde?
Non. Pour 3 points, Winnie Antonio, Romain Taufifénois, Laurent Labitte.
Ah.
Pour 2 points, Winnie Antonio, Romain Taufifénois, Laurent Labitte, Thibaut Giroud.
Ah, Bastien.
Oui.
Quels joueurs vont quitter l'équipe de France?
C'est pas des joueurs, mais c'est des membres. Oui, membre le dernier étant Karim Ghezal, en effet. Ça fait 2 points pour Bastien. 2-1 pour Bastien, les gens qui vont quitter le 15 de France. Après cette
et Fabien Galthié,
tombé
en direct.
Je voulais pas trop en parler parce qu'à un moment que ça tombe entre le moment d'enregistrer.
Non, mais là j'ai la notif Rugbyrama, il vient de démissionner.
Ouais. Il a pris un poste de manutentionnaire chez Amazon. On félicite. Troisième question. 2 en 1987. Pour 5 points, 2 en 1987. Pour 4 points, 2 en 1987, 2 en 1995. Celle-là est plus dure, je comprends que vous galériez. 2 en 1987, 2 en 1995, pour 3 points. 3 en 1999.
Bastien,
oui.
Le nombre d'essais par finale de chaque édition?
Non. 2 en 1987, 2 en 1995, 3 en 1999, 4 en 2019. Pour 2 points, 4 en 2019. Et pour 1 point, 3 en 2023.
Bastien,
oui.
Le nombre de représentants de l'hémisphère sud en demi-finale.
C'est une excellente réponse de Bastien! 2 en 87, 2 en 95, 3 en 99, il y en a eu 4 en 2019, 4 sur 4. Et 3 en 2023, c'est le nombre de nations qui représentent l'hémisphère sud. Ça fait 3-1 pour Bastien. On peut l'applaudir parce que c'est
Bastien, là. Bastien.
Question suivante, pour 5 points. 4 minutes. Pour 5 points, 4 minutes. Je suis content que vous galériez parce que Riwan. Je pense aux auditeurs qui vont du coup pouvoir...
C'est une chanson de Madonna et Justin Timberlake.
Oh oui, we are the guys for me to say the world.
J'ai bon. Tellement un point. Allez, pour ça.
Non, 4 minutes. Pour 4 points, 4 minutes, 64 minutes.
Donc 4 minutes, 64 minutes.
Pour 3 points, 4 minutes, 64 minutes... 0 minutes.
Bastien.
Oui.
le temps de jeu de le Lucu en Coupe
du Monde. Oh, incroyable ! Eh oui ! Ah là, les 3 points sont totalement mérités.
Il est on fire là.
Ah ouais. 4 minutes, 64 minutes, 0 minutes, 55 minutes et 0 minutes. C'était le temps de jeu de Maxime Lucu dans cette Coupe du Monde. Ça fait 6-1 pour Bastien.
Moi qui ai l'habitude de t'écrabouiller.
Tu prends ta revanche.
Écrasé comme une grosse merde.
Non, mais je suis comme l'Afrique du Sud contre l'Angleterre samedi. Je comprends pas d'où ça vient. C'est incroyable.
Pour 5 points, victoire contre l'Écosse.
Riwan. Oui. Afrique du Sud.
Non.
C'est une question qui
vous pose. Oui, c'est pas Afrique du Sud. T'as dit Afrique du Sud ? Afrique du Sud, ça marche pas.
D'accord.
Pour 4 points, victoire contre l'Écosse, défaite contre la Nouvelle-Zélande. Victoire contre l'Écosse, défaite contre la Nouvelle-Zélande. Pour 3 points, victoire contre l'Écosse, défaite contre la Nouvelle-Zélande, victoire contre la France.
Bastien.
Oui.
Les matchs de l'Afrique du Sud en 2023.
Non. Ils ont pas perdu contre la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud.
Pour
l'année civile, tu veux dire.
Non,
ça se tient maintenant.
Ça a marché pour l'instant, mais...
Pour 2 points, victoire contre l'Écosse, défaite contre la Nouvelle-Zélande, victoire contre la France, victoire contre la France.
Attends, t'as mal dit, là.
Victoire contre l'Écosse, défaite contre la Nouvelle-Zélande, victoire contre la France, victoire contre la France.
Ah, encore victoire contre la France.
Et 2 fois de suite.
Ah bah, Bastien...
Ah, non, Bastien a dit son prénom. Okay.
Bah, les matchs de l'Irlande en 2023.
Non.
Non, c'est le Pays de Galles.
Non. Victoire contre l'Écosse, défaite contre la Nouvelle-Zélande. Victoire contre la France, victoire contre la France, et pour un point, victoire contre la Nouvelle-Zélande. Ce qu'on cherche, c'est pas 2023, faut élargir un peu. Ce que je peux vous dire,
c'est les matchs d'ouverture de la Coupe du Monde.
Non, ce que je peux vous dire, c'est que la défaite, tu veux dire un truc,
Bastien? Parce... les matchs arbitrés par Wayne Barnes.
Non. Là, je vais vous donner un indice, donc on est reparti, vous pouvez tous les deux répondre. La victoire contre l'Écosse est en 1987. La victoire contre la Nouvelle-Zélande est en 1991. La victoire contre la France est en 2003. La victoire contre la France est en 2007.
Et
la
victoire contre Angleterre.
C'est-à-dire
les victoires de l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde.
C'est une bonne réponse. Un point pour Riwan, les victoires de l'Angleterre. Enfin, les résultats de l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde. Ça fait 6-2.
C'était beaucoup plus pénible que tes réponses à toi, qui étaient flamboyantes.
Question suivante. Pour 5 points, France.
La France.
France.
Riwan.
Oui.
Quel est le meilleur pays du monde?
Oh, et non.
Bastien.
Mais c'est vrai, factuellement.
Quel pays a un gros
diabète? Parce qu'en pour 4 points, il y a France et il y a Nouvelle-Zélande. France, Nouvelle-Zélande. Pour 3 points, France, Nouvelle-Zélande, Argentine. Pour 2 points, France, Nouvelle-Zélande, Argentine, Afrique du Sud. France, Nouvelle-Zélande, Argentine, Afrique du Sud. Et enfin, pour 1 point, France, Nouvelle-Zélande, Argentine, Afrique du Sud, Angleterre. On parle de quelque chose qui s'est passé le week-end dernier. France, Nouvelle-Zélande.
Ah, Bastien,
oui.
Les équipes qui ont ouvert le score?
Non.
Ah non,
c'est compliqué.
Équipes, oui, que 4 matchs. Donc,
4 matchs, c'est compliqué. C'est dans l'ordre croissant. Donc France, un peu plus Nouvelle-Zélande. Enfin, un peu plus. Non.
Ah, Bastien,
oui.
J'ai le droit?
Oui, vas-y.
Le nombre de points inscrits?
C'est quasiment ça. Celles qui ont marqué.
Le plus d'essais?
Non,
le plus de points.
Le plus de points, je te le donne.
Le nombre de points inscrits, c'est quoi la différence?
C'est 5. Bah, ça peut être le moins de points inscrits.
Attends, j'ai dit le nombre. Ah oui, d'accord. Le plus de points.
C'était dans l'ordre croissant, c'est-à-dire France.
T'avais 28, dit le nombre croissant.
Nouvelle-Zélande 28, Argentine 29, Afrique du Sud 29 et Angleterre 30 points.
Wow.
Les équipes qui ont marqué le plus de points en quart de finale. Question suivante. 14e minute. Pour 5 points, 14e minute. Il y a 7-2 pour Bastien.
Riwan.
Oui.
La minute où Eben Nzebet a fait un en avant volontaire.
Non,
qui
n'est
pas volontaire et qui est derrière.
C'est bien. C'est bien avant. Bien à l'avant. 14e minute.
Bastien, les minutes des premières mêlées.
Non. Pour 4 points, 14e minute, 23e minute.
Riwan. La minute des premiers essais en quart de finale.
Non, il y en a eu avant.
Oui, non. Oui, non. Il y a eu 30 minutes pour la France.
14e minute, 23e minute. Pour 3 points, 14e minute, 23e minute, 28e minute.
C'est la minute des cartons jaunes en quart de finale.
Non. Pour 2 points, 14e minute, 23e minute, 28e minute, 64e minute.
Ah, je sais. C'est la minute des Marseillaises qui ont été lancées.
Non. C'est autre chose à branler que de compter ça. 14, 23, 28, 64... Et le dernier, pour un point, 14e minute, 23e minute, 28e minute, 64e minute, 68e minute. C'est quelque chose qui s'est passé ce week-end.
Tous les moments où Damien Penaud a fait une course en travers.
Non, t'es pas sur le bon match. Vous étiez pas très loin tout à l'heure, mais vous êtes parti sur le mauvais critère. quand vous avez dit minute des cartons jaunes, non, mais c'est pas les cartons jaunes que je cherche, c'est plus simple que ça.
Les essais du match Nouvelle-Zélande-Irlande.
Non, 14-23, 28, 64, 68, 14-23, c'était très bien, c'est pas le bon match.
Ah, bah Bastien, les essais de Argentine-Pays de Galles.
Non.
Argentine-Fidjiritaire.
Non, une chance sur deux pour Ewan. 14-23, 28, 64, 68.
Ah, du coup, ouais, c'est facile.
Les essais de Pays de Galles Argentine.
Non.
Je viens de le dire. Fidji-Angleterre.
Fidji-Angleterre. Allez, un point pour Bastien. Ah, les essais 64, de Fidji.
64 et 68, c'est deux essais Fidji en plus.
Oui. Les minutes 64-68, en effet, les minutes auxquelles un essai a été inscrit lors d'Angleterre-Fidji. Ça fait donc 8-2 pour Bastien. Oh là on là continue là. Avec.
8-2, ça me rappelle un score de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Voilà,
pour 5 points, D0. D. 0.
Alors, D, comment
tu dis D, 2 points, 0. Comme la lettre D.
La lettre D, 2 points, 0.
Pour 4 points, D, 0. E, 1.
C'est le total de points des derniers de poule.
Bastien, les premiers coups en bataille navale entre Antoine Dupont et François Cross.
Non, c'est Penaud qui est très fort en bataille navale. D, 0, E, 1. Pour 3 points, D, 0, E, 1.
On dirait des trucs d'échecs de
B, 1. D, 0, E, 1, B, 1.
D, 0.
On parle de la Coupe du Monde de rugby depuis tout à l'heure.
D, 0, E, 1, B, 1. Ah, le nom des, enfin le numéro de poule des classes, enfin des gagnants de la Coupe du Monde de rugby.
C'est excellent, la poule dont est issue l'équipe qui a remporté les éditions de la Coupe du Monde. Il n'y a jamais eu de vainqueur de Coupe du Monde qui est sorti de la poule D.
Ah non, bah si, D0.
Bah
D0. Ah oui, D0, ok, d'accord.
Qui était dans la poule D cette année? C'était l'Angleterre, non? Oui, c'était l'Angleterre et l'Argentine. Donc l'Angleterre et l'Argentine ne gagneront pas cette Coupe du Monde. Statistiquement.
Mais attends, comment tu pouvais avoir 5 trucs du coup s'il n'y a que 4 poules?
Non, en 99, il y avait 5 poules. Il y avait 6 poules.
Ah oui.
Et donc, l'Australie était dans la poule E. La poule B, une fois. La poule A, 3 fois. Et la poule C, 4 fois. 4 champions du monde sont sortis de la poule C. C'est inintéressant, mais c'est bon à savoir. Ça fait donc.
C'est vrai que c'est très inintéressant.
11-2 pour Bastien. 11-2 pour Bastien. Est-ce qu'il va pouvoir se relever? Il reste deux questions.
Oh bah, je pense pas.
Non, hein,
je pense que je vais rester au sol et qu'il va m'attraquer comme un MMA.
Pour 5
et
points.
Que je vais faire non, arrêtez.
Pour 5 points, Angleterre.
Pour 5 Rewan, points. Qui va gagner la Coupe du Monde 2023?
Eh non. Pour 4 points, Angleterre, France.
Rewan, qui s'est humilié lors d'une Coupe du Monde à domicile?
Non, ça pourrait être ça. C'est vrai.
Bastien, les cotes des favoris au départ de l'édition de la Coupe du Monde?
Pour 3 points, Angleterre, France, Irlande. Pour 2 points, Angleterre, France, Irlande.
Rewan, quel pays a acheté le plus de places pour la Coupe du Monde et le regrette?
Non. Angleterre, France, Irlande, Nouvelle-Zélande.
Bastien, le classement IRB après les quarts de finale.
Oh là là. Incroyable, arrêtez-le. Il y a un extincteur là. Vas-y, utilise-le.
Oui. J'ai jamais perdu un jeu, je pense, depuis le début de ce podcast. Et là, je me fais rouler dessus, c'est incroyable quoi.
13-2, Angleterre 5e, France 4e, Irlande 3e, Nouvelle-Zélande 2e, Afrique du Sud 1er.
J'ai vu cet après-midi, effectivement.
World Rugby après les quarts de finale. Dernière question. Australie pour 5 points. Australie pour 4 points. Irlande pour 3 points.
Ah oui, là tu vas très vite là.
Ah oui, bah, c'est le dernier, ça compte plus, il y a 11-2.
Non, il y a plus que 11-2, il y a 11-2 le tour d'avant, non? 13-2.
13-2. Là. Australie, Irlande pour 2 points. Écosse pour 1 point. Afrique du Sud. Australie, Irlande, Écosse, Afrique du Sud. On parle de défaite. Australie. Irlande, Écosse, Afrique du Sud.
Les dernières défaites de l'équipe de France en match élimination directe?
Non.
En Coupe du Monde?
Bon, en match tout court.
En match tout court. Un point pour Ewan, bravo Ewan, tu l'as pas
attends, volé celui-là. Redis.
Australie, Irlande, Écosse, Afrique du Sud. Les dernières défaites du 15
en match de préparation.
Mais bravo Ewan, t'es trop fort, tu mérites bien ce point-là. Mais oui.
C'était,
bravo,
est-ce
qu'on n'avait pas dit une règle comme quoi le gagnant de la dernière réponse gagnait le jeu? C'est comme quand t'es petit et que c'est genre.
Le but en or.
Il y a 11-2 foot et on dit le prochain qui marque, il a gagné.
L'Australie, c'était la tournée d'été 2021. Ensuite, l'Irlande au tournoi 2023.
Et j'avais oublié le match de préparation, je comprenais pas. J'étais parti sur l'Irlande avant.
Non, mais il mérite sa victoire. Parce que bravo, moi je suis fort dans les questions.
13-3, tu remportes. T'es fort dans les questions.
Bah, dans les questions de culture pure, tu me dis qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, je te le dis. Mais quand il faut réfléchir, bah là j'irai plus, tu vois. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs du fait qu'on allait plus loin dans la Coupe du Monde que le stade du 15 de France?
Tout à fait. Pommy, Roby.
C'est la combi de Pommy qui fait la différence.
La Vierge. Mmh. Et la combi de Pommy, c'est ce qui nous a fait passer en quart. C'est ce qu'il a manqué, je pense, à
Fab. C'est ce qu'il a manqué au match, c'est Gaëtan Barlow.
Clairement. Finalement.
La combi de Pommy.
Parce que Pierre Bourgarit, il a fait une rentrée totalement désastreuse, on peut le dire.
Oui.
Enfin, il a fait de mal, mais juste il était là. Et pour moi, c'était déjà mal.
On passe au jeu pour les auditeurs avec un cadeau. Ah là, c'est un cadeau, c'est incroyable. Un set de supporters du 15 de France. Voilà, ça déstocke sur le site de France Rugby, donc c'est le moment d'en offrir un. Ça contient un maquillage bleu, blanc, rouge, un claque-main, vous savez, le truc qui fait clac, et un sifflet aux couleurs de France Rugby.
Ah, pour Ben O'Keefe, peut-être qu'il pourra siffler comme
ça. Oh,
boum,
boum, boum.
Oh, ça dénonce.
On en profite pour féliciter Rémi, qui a remporté le dernier jeu et donc des Eco Cup. Merci à tous et à toutes pour vos nombreuses participations. Et ça nous donne l'impression d'offrir des cadeaux cool.
Et petite mention aussi à notre ami qui avait remporté la cravate. Oui. 15 de France,
oui.
Et qui l'a porté ce week-end, enfin le week-end dernier.
Et à cause de lui, on a perdu.
Et on a perdu. Mais il avait la cravate du 15 de France dans son bar, voilà, bravo à lui.
Merci. Bravo à lui, merci.
Merci de nous avoir envoyé une photo, ça fait plaisir.
Pour cet épisode, on va vous demander de jouer au jeu auquel viennent de jouer Bastien et Riwan. Je vais donc vous donner 5 réponses et vous devrez trouver la question commune à ces réponses.
C'est méga dur.
Les réponses sont Irlande, Écosse, Italie, Pays de Galles, Angleterre. Irlande, Écosse, Italie, Pays de Galles, Angleterre. Pour participer, vous envoyez votre réponse par mail à l'adresse suivante boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr en mettant l'objet « Attention, Colby te fonce dessus !» avec des points d'exclamation pour que ça me fasse vraiment peur quand je regarde ma boîte de réception. Vous avez jusqu'au 22 octobre pour participer, ensuite on tirera au sort le vainqueur parmi les bonnes réponses. Et hop hop, avant de partir, vous resteriez pas pour une dernière chronique, messieurs?
Bon allez, hein.
Celle de John Bills.
Ah, bon, j'écoute pas, moi.
Ouais, bah écoute, on se racontera comment c'était.
Salut les bilotes. Je sais pas pourquoi ça sonne moins bien que le Adichat de l'affreux. Je suis pas sûr de le garder. Bon, bref, bonjour à tous, c'est John Pills. Après la désillusion de ce week-end, je n'ai aucune envie de parler rugby. Je vais donc vous parler d'un vrai problème organisationnel de cette Coupe du Monde. Si par bonheur vous avez eu la chance d'avoir des places pour un match, vous avez été confronté à cet ennui majeur, ce dilemme cornélien. Quel est le meilleur moment pour aller pisser quand on est au stade? Parce que oui, c'est un problème. Vous mettez des dizaines de milliers de spectateurs de rugby, dont un fort contingent anglo-saxon dans un stade, les litres de bière coulent à flot et les vessies ne sont plus étanches. Et comme personne ne veut louper les hymnes ou un moment crucial du match, ça bouchonne aux toilettes. Alors quand y aller? Quelle stratégie adopter? Quelles astuces pour ne pas se faire dessus? Je vous dis tout. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des matchs plus propices pour s'éclipser. Par exemple, si comme moi vous étiez dans le stade pour Argentine-Pays de Galles, le moment idéal était entre la première et la 80e minute. Vu cette purge, vous ne loupiez pas grand-chose. Mais souvent, c'est plus compliqué de tenir près de 2 heures sans pit-stop. Alors bien sûr, vous pouvez y aller à la mi-temps. Mais croyez-moi, le Waze des sanitaires vous le déconseille. Faire la queue un quart d'heure, entouré de dizaines de rugbyx ivres, qui vous expliquent que l'arbitre est une pipe en vous postillonnant dans le beignet, ce Twitter real life avec une vessie pleine, non merci. Alors il existe quelques petits trucs à tenter. Le plus audacieux, c'est de partir plein gaz dès qu'un essai est marqué. Vous avez alors 90 secondes pour courir, vous soulager et revenir en sprint. Au prix de quelques probables dernières gouttes dans le caleçon, la prouesse est possible. Autrement, pour ne rien louper, pisser sur le spectateur devant vous est une solution pratique. S'il est britannique, il sera très probablement tellement aviné qu'il ne le remarquera même pas. Mais vous soulager sur un sud-africain de 2 mètres peut vous causer quelques désagréments, surtout qu'il n'y aura pas d'arbitrage vidéo pour freiner ses ardeurs de vengeance. Alors, vous avez envisagé cet Eco Cup, non? Elle fait 1 demi-litre et vous l'avez tout de même payé 2 euros en plus de votre bière insipide et hors de prix. C'est probablement une mauvaise idée. Il y a de grandes chances que votre voisin shoote dedans 5 minutes plus tard et vous trempe les pieds. Ou pire, que par réflexe, vous la rebuviez avant la fin du match. La vraie solution, vous l'avez sous les yeux depuis quelques temps avant chaque match, à chaque coupure pub de TF1. Pourquoi ne pensez-vous pas à essayer Tenamen Active Fit Pen Plus? Les sous-vêtements Tenamen Active Fit Pen Plus, en bleu marine, ressemblent à un sous-vêtement classique, avec une coupe masculine, une ceinture élastique et une matière respirante semblable au coton. La zone d'absorption sécurisée capture instantanément les fuites. Vous bénéficiez d'une triple protection contre les fuites, les odeurs et l'humidité. Soyez confiant et gardez le contrôle avec Tenamen.
Merci beaucoup. On se rend compte que c'est l'épisode où les chroniques sont meilleures que...
Bah, c'est pas lui, en même temps.
Voilà, mais bravo, bravo, John, c'est très important. Ouais, et on rappelle...
Et merci aussi, parce qu'on est sponsorisé, je pense, pour faire
ça. Bah oui, tout à fait, merci, on est sponsorisé, même si le sponsor numéro 1, on l'oublie pas. c'est medepanner.fr. Là, depuis le début de l'aventure. Enfin, ça fait 17 épisodes que medepanner.fr, MD.fr, comme on l'appelle dans le milieu, nous soutient. Et on est très,
sans
très
le savoir.
Content. Sans le savoir.
Et sans toujours. Nous payer, ce qui commence à devenir problématique.
Ça commence à devenir très, très chiant parce que franchement, on leur a amené beaucoup de clients. Donc, s'ils pouvaient un peu nous écouter, ce serait très cool. Et en plus, là, d'un coup, il s'est rafraîchi un peu.
Ah, ça c'est retombé. Ah, hein.
C'est retombé bien, là.
Ouais.
Donc, c'est peut-être le moment de faire attention.
Est-ce qu'on n'a pas tous un petit peu pris la clim?
Non.
Petit coup de froid, en France.
C'est pas fini.
Mais j'espère qu'un jour, vraiment, il y a quelqu'un de chez medepanner.fr qui va entendre ce podcast et qui va se dire.
Arrêtez. On arrête.
Non, pas qu'on arrête, qui va nous donner de l'argent. Parce que, t'imagines, si on fout toutes les 17 épisodes fois X centaines, milliers de personnes.
En tout cas, merci à toutes et à tous de nous suivre depuis 17 épisodes. On va continuer, bien sûr, parce qu'il y a l'épisode du podcast, mais il y a surtout le top 14 qui revient dès le mois d'août novembre. Oh là là.
Ah, j'ai hâte.
Et puis...
Ah, je suis trop excité. On aura tous aimé souhaiter parler d'une victoire du 15 de France, mais ce n'est pas le cas. On s'est quand même bien amusé. Pas tous, ok. Merci à Bastien, merci à Rewan, merci à Damien, merci à John, merci à l'affreux. Pour tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui, c'était un contenu de très bonne qualité, surtout pour les chroniques.
Surtout pour les chroniques, ouais.
On se retrouve dans 2 semaines à Castres, en live, sur Twitch, pour un nouvel épisode. Merci Bastien, tu seras pas là, Bastien.
Non.
Mais tu nous encourageras de loin.
Non plus.
On fera un nouvel épisode bilan de la Coupe du Monde, bilan du monde et bilan de la Coupe.
Et bilan.
On fera tout en une fois. Et bilan
du
comptable.
Est-ce qu'on ferait pas le bilan de la boucherie, tiens?
Ce serait belle l'occasion.
Juste sur le bilan de la Coupe du Monde de la boucherie, je tiens à souligner quand même qu'on a publié quoi, 20 articles avant le début de la Coupe du Monde.
Et zéro après.
Et ça, c'est très boucherie.
Bah oui, bien entendu, puisque de toute façon, il y a les bijoux de Rewan à retrouver sur Actu Rugby, bien entendu. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode en live à Castres sur Twitch, sur toutes les plateformes. Bien entendu.
Pétrolière.
On se
Est-ce que tu peux parler de la désémission un peu?
Non.
Non.
Je sais pas, on fait de la pub pour le bouquin, on fait de la pub pour le podcast.
Et bah, on se retrouve sur toutes les plateformes.
Plus personne nous écoute la semaine prochaine.
On se retrouve sur toutes les plateformes, comme les plateformes
pétrolières,
parce que ça c'est une blague de la désémission, mon podcast que j'ai depuis 7 ans maintenant.
Oh là là, c'est beau.
On en est à l'épisode 220 bientôt, et n'hésitez pas à y aller pour apprendre des choses inintéressantes sur la culture générale. Merci de m'avoir laissé faire cette pub. En attendant, n'oubliez pas que la vie est trop courte pour comprendre le rugby, alors autant rigoler. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. Bisous.
Il n'y a pas de petite chanson de générique cette semaine.
Ok. Prépare les valises, mon Winnie. Dès l'écart, c'est fini. T'as bien kiffé le match face à l'Italie.
Ok.
Et la pommette d'Antoine, elle l'a bien guérie.
Merci.
Toute la semaine préparer la stratégie. Je fais des fléchettes sur la gueule de Colissi.
Bam, bam.
Passe les vitesses et en saute intensity. Comme l'équipe des barrettes, faut qu'on passe en demi.
Allez.
Comme à l'ancien, je mets le maillot bleu uni.
Oh.
On va se qualifier, taper les Anglais.
Allez.
Flèche du temps jusqu'au Nirvana. Depuis 4 ans, nous on ne pense qu'à ça. Faire un petit bisou pour la première fois sur la coupe web. Elise Galtier nous a promis ça.
Ok. Ben O'Kiffance, il a fait pleurer la France.
Ben
O'Kiffance, Ben
O'Kiffance,
plein tolérance sur les fautes de la défense.
Ben
O'Kiffance,
Ben
O'Kiffance,
Solel Rameau, c'est parti pour en mettre 5.
Allez.
Mais Etzebet avec sa grande main nous flingue.
En avant volontaire là.
Au quart de tour avec Cascato de Berzing. Colby contre le ballon, oui, ça nous rend dingue.
Mais il est parti devant.
À Marcel l'an dernier, dont il a trop souffert.
Oh non.
Du toit cette année, sa pomme est-il à rouvert?
Ah, ça sent.
Dans l'air quoi, guess, mais s'il a les mains par terre.
Ah, c'est faux,
pardon. Big up à notre sponsor, mais des panneurs.fr.
Ben O'Kiffance, il a fait pleurer la France.
Ben
O'Kiffance, Ben O'Kiffance,
Ben O'Kiffance,
plein tolérance sur les fautes de la défense.
Ben
O'Kiffance,
Ben O'Kiffance,
Ben O'Kiffance,
Ben O'Kiffance. Flèche du temps jusqu'au Nirvana. Depuis 4 ans, on ne pense qu'à ça. Faire un petit bisou pour la première fois sur la coupe. Ouais, Elise Galtier nous a promis ça.
Okay. Mais Ben O'Kiffance, il a fait pleurer la France.
Ben
O'Kiffance,
Ben
O'Kiffance,
Ben O'Kiffance,
plein tolérance sur les fautes de la défense.
Ben
O'Kiffance,
Ben O'Kiffance,
Ben O'Kiffance,
Ben O'Kiffance, Ben O'Kiffance, il a fait pleurer la France. Ben O'Kiffance,
Ben O'Kiffance, plein tolérance sur les fautes de la défense. défense. Belle qui fonce, belle qui fonce.